Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R. Kevin Raphaël.
Est-ce que vous m'entendez bien?
On t'entend bien, tu parles devant ton micro.
Parce que je suis évaché.
Hey, yeah. C'est le retour de Fred.
Yeah!
Qui est revenu d'L.A. et qui a trouvé foutrement cher les Uber Black SUV.
Uber Black SUV ou rien.
Exact, il a pris le transport en commun, notre Fred.
Fait là qu'on va aller à Québec pour la lutte, là.
Non, mais attends, là. Là tu scoopes déjà, là.
Ah, je me suis...
On a des annonces pour vous, là. On a des annonces.
Mais bon. Moi, je suis là, moi, je parle, les patins
discours. Mais arrête de parler.
Ben oui, mais là.
Donc, premièrement, on a des bonnes nouvelles, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va avoir des billets à faire tirer pour une paire de billets pour le SmackDown à Montréal.
OK.
Et deux paires de billets pour le House Show à Québec du 21 août.
Yeah!
Donc, à partir du 3 août, ben 4 août en fait, les jeudis. Donc, le 4, le 11 et le 17, on va avoir billets, donc une paire de billets par semaine à faire tirer. On va faire Québec-Montréal-Québec. Donc, si ça vous tente de participer, on vous dira comment la semaine prochaine, mais ça s'en vient. Autre bonne nouvelle. Pour les gens de Québec et tous ceux qui vont être à Québec le 21 août.
Les gens de Québec.
On va avoir un podcast des Antipodes de la lutte, podcast devant public.
Yeah!
Ça va se passer en plus, et c'est dadon, ça va se faire dans le lobby du centre Vidéotron. Donc, au même endroit où vous allez voir la WWE après. D'ailleurs, il y a déjà plus de 5000 billets de vendus là, pour l'événement. Oh, c'est un gros succès. Je suis vraiment content. Donc, à 16h30, de 16h30 à 18h environ, un 90 minutes, les Antipodes de la lutte sur la route, 21 août, dimanche, 16h30, dans le lobby du centre Vidéotron. Man, je suis vraiment excité.
Moi, je suis pumped. On va être dans le lobby du centre Vidéotron.
Oui.
On va turnt.
On va essayer de vous avoir des surprises.
On va avoir des surprises.
On.
Sinon, on fait pas le podcast.
C'est toi puis moi, puis Fred devrait être là aussi. Hein?
Ben là, mettez de la pression sur Fred, là. Fred est là, il check son horaire.
Fred,
comme
il dit, je ne sais pas, j'ai un meeting avec le pape, puis ensuite avec le premier ministre, là, il est comme pas sûr.
Ouais.
Qui book?
Moi, j'ai dit, c'est Château Frontenac ou rien, hein?
Ben oui, parce qu'on va être là, on risque d'être là tout le week-end. En fait, on va être à Montréal le vendredi, puis on va passer le reste du week-end à Québec. Donc, pour vrai, deux super bonnes nouvelles. Je suis très, très, très content. Parlant de bonnes nouvelles, Kev, ben, la classique KR, ça s'en vient, là.
La classique KR, ça s'en vient, puis on vient de m'annoncer un nouveau coach.
Stéphane Richer.
Stéphie Rich va être là.
Wow!
Stéphane Richer va être là.
Tu sais, Stéphane Richer, c'est un fan de lutte où il nous écoute.
Ouais,
je sais pas s'il nous écoute seul ou s'il nous écoute. Tu sais, mais je sais que je l'ai déjà rencontré. Puis il dit, oh ouais, je vous écoute la lutte, là. C'est bien le fun. Je suis comme, waouh, Steph Richer. Fait qu'il va être là. T'as annoncé d'autres mondes, me semble.
Non.
Non?
Non, non, non,
tu
non.
Tu m'as toujours pas annoncé, d'ailleurs.
Non, ça s'en vient.
Ben ouais. Damn,
man. Laisse-moi monter une équipe d'hockey féminin. Chose à la fois.
Monsieur le Président.
On a annoncé nos 7 premières joueuses de l'équipe, par exemple. Puis ça a fait un onde de choc.
Ça fait un tabac.
Une onde de choc. Parce que l'annonce de Montréal a été la plus grosse annonce de l'histoire de la PHF. Au niveau des médias, et l'annonce des 7 joueurs a été reprise par tous les médias, autant francophones qu'américains. Donc, pour vous donner un
dont notre collègue à TVA Sports, Anne-Sophie Bété.
Yeah, Anne-Sophie Bété va être le cœur de cette équipe-là. L'âme de cette équipe-là. Le cœur de cette équipe-là, ça va être Jade Dani Landry, superstar à McGill. Kim Deschaines qui va être à sa dernière saison, puis qui va la jouer avec nous autres. Christina Shanahan, qui a été capitaine du Vermont. Vermont, excusez-moi, Brigitte Lagagnère, meilleure défenseur au Canada niveau universitaire. Sarah Lefort, légende du hockey féminin au Canada. Et Alexandra Labelle, qui, elle, a eu un parcours exceptionnel à l'université des Carabins de Montréal. Donc, c'est les sept premières. Puis déjà, les gens ils disent qu'on va gagner le championship. Je suis comme vous n'avez pas encore vu nos goalers.
Excellent, excellent. Puis, sans restriction cette semaine,
Pierre-Olivier Joseph. P.O. est venu sur le pod.
Ouais.
P.O. est venu sur le pod. On a déjà dit beaucoup de choses, dont son premier meeting avec Alexander Ovechkin sur la patinoire.
OK.
Qu'est-ce qu'Alexander Ovechkin lui a dit sur la patinoire quand il l'a rencontré pour la première fois. Puis il nous parle un peu de l'envers du décor, parce qu'on a parlé de Pierre-Luc Dubois. Là. Fait qu'il nous parle un peu de c'est quoi être un joueur de hockey dans cette situation-là. C'est vraiment intéressant. Je vous encourage tous à aller l'écouter.
Et juste avant d'aller aux nouvelles, je veux prendre la peine de te féliciter, parce que vendredi merci. Dernier, c'était ton tout premier merci. Numéro à un gala juste pour rire. Et pour vrai, en haut et pour vrai, là, t'as tué Kev, merci. T'as eu un standing. Yeah. C'était vraiment un bon numéro.
Moi, j'étais sous panique parce que le show que t'étais venu voir au bordel, là, j'étais oui. comme God damn. Là, je te l'ai dit, même dit, j'étais comme oui. God damn, j'aurais dû arrêter de roder.
Ça a bien rentré, c'était bien. C'était un bon numéro. C'était, tu sais, tissé serré, tu punchais. J'ai vu ta famille après, j'ai ouais. vu ton père Raphaël.
Il me l'a dit. T'as pas vu la vidéo que je t'ai envoyée?
Non!
Hein?
Non?
C'est ça, tu niaises, c'est où, Marcel? T'as pas vu le vidéo que je t'ai envoyé,
pas vidéo envoyé.
Ma question, c'est à qui j'ai envoyé ce vidéo-là maintenant?
Oh! Ben, tu vois, peut-être que je l'ai vu, je m'en rappelle pas, c'est pas impossible. Mais j'ai vu ton père et à la sortie de la place des Arts.
God.
À qui t'as envoyé ça?
Mais je t'ai pas envoyé. OK, mais je vais okay. le faire écouter à tout le monde. Je vais le retrouver.
Ton père qui me dit: oh là là, tu le taquines un peu, mon fils, hein?
Ouais.
Et je pleurais, je savais qu'il me parlerait de ça. J'ai vu maman Raphaël, j'ai vu grand-maman.
Ouais.
Grand-maman de son prénom.
Grand-maman.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. Mais non, pour vrai. Ta sœur aussi.
Ouais, mais tout le monde était là.
Qui était pas là au show parce qu'elle travaillait.
Ouais.
Fait qu'elle pouvait pas être là, mais elle était là.
Je vais essayer de mettre du son.
Je vais écouter ça.
Merci beaucoup, hein.
Parce que mon père, il porte le chandail de Pat l'Espagne.
Oh, man! J'ai pas vu ça.
OK.
J'ai pas vu ça.
Allô, Pat. Allô, Pat. Merci beaucoup, hein. Pour le chandail, hein. Quel beau chandail, hein. Merci beaucoup, Pat.
Je pense que mon
il fait
père,
juste ça,
c'est ton plus grave.
Il fait juste dire merci beaucoup, quel beau chandail. Il a bien fait.
Il mangeait le hamburger puis il dit: je veux pas te le chandail de Pat Laprade.
J'adore ton père, j'adore ton père. Faites bref, félicitations vraiment.
Ça merci, été, j'apprécie merci d'avoir été là. C'était vraiment nice d'avoir tout le support puis de c'est nice pour vrai. C'est une belle journée. Mais ouais. Là, d'autres choses après.
Ben oui, absolument. Donc on a un gros podcast pour vous et puis on commence tout ça avec les nouvelles. Bon, ben, en anglais, on dit « the shit hit the fan ». La merde a pogné le ventilateur.
Ben, la merde a pogné le ventilateur. La merde n'a pas pogné le ventilateur. Ben, la merde était collée sous le ventilateur. Quelqu'un a fait play. La merde était collée là depuis...
Quelqu'un a allumé la switch.
Puis là, la merde est allée partout.
Donc, si vous étiez...
Sous une roche
ou...
à LA comme Fred.
Ou un abonné Rogers.
Wow!
Ben, vous avez manqué que Vince McMahon a démissionné, a été forcé, parce que c'est ça, en bout de ligne, c'est ça l'histoire, là. Il a été forcé de démissionner de la WWE.
Ouais.
Donc, ça s'est passé en deux temps. Ça s'est passé avec l'annonce vendredi. Puis le pire, c'est je pensais à toi. L'annonce de la retraite, parce qu'au début, ça a été une annonce de retraite. T'étais probablement en train de de faire les derniers ajustements pour ton number.
C'est arrivé à 4h qu'il l'annonce. C'est 4h05.
Un petit peu après 4h. Ouais.
Je capotais parce que tout le monde me textait. Puis moi, j'étais pas encore sur Twitter. Je faisais mes shit.
C'est sûr.
Là, tout le monde me texte. Je suis comme, yo, man, je comprends. Les gens veulent me dire bonne chance, whatever.
Puis ouais. Non, c'est Vince.
Puis là, fallait que je réponde à des gens, là. J'étais comme, yo, moi, je parle à personne aujourd'hui. J'ai fait aucun média. Je m'en fous.
Mais c'est pour ça que j'étais pas texté, là. J'étais tagué sur une couple d'affaires. Ouais. Mais j'étais pas pour te texter, là. J'étais pour t'en parler plus tard. Mais c'était complètement fou. Donc, Vince McMahon, vendredi dernier, qui, sur Twitter, dans un communiqué de la WWE, annonce qu'il prend sa retraite à l'aube de ses 77 ans. Il en a fait assez, blablabla. Évidemment, ça cache... ça cachait quelque chose. Il y avait, on se doutait que c'était soit à cause que la pression était rendue trop forte des accusations d'agression sexuelle et de paiement pour avoir acheté le silence là, de certaines femmes, ou il y avait quelque chose d'autre qui s'en venait. Et ben là, lundi, on a eu un peu la réponse à tout ça, dans le sens où il y a eu un autre rapport qui est sorti à l'effet que la WWE a remis un rapport à la SEC, la SEC, qui est Securities and Exchange Commission, qui, elle, a pris une décision préliminaire selon laquelle certains paiements de Vince McMahon, que Vince a accepté d'effectuer en 2006 et 2022, n'ont pas été enregistrés dans les états financiers consolidés de la WWE. En d'autres mots, là, c'est qu'il y a eu des paiements de fait avec les fonds de la compagnie qui n'ont pas été enregistrés dans les états financiers, dans les dépenses de la compagnie. Et ça, en vertu des règles de finance, et parce que une compagnie publique, t'as pas le droit de faire ça. T'as un devoir envers tes investisseurs, t'as un devoir envers ton conseil d'administration. Et les taux se resserraient beaucoup trop pour Vince, qui a annoncé une retraite, mais dans le fond, on a su le lundi que c'était une démission un peu forcée. Il a perdu également son poste comme président du conseil d'administration. Ouais. Et évidemment, le plus important de tous ces postes-là pour les fans de lutte...
Pour
lui aussi, c'est le directeur de l'équipe créative de la WWE. Donc, Vince McMahon n'est plus... Là, il demeure évidemment propriétaire à raison de, je crois que c'est une trentaine de pourcents au niveau des actions, mais 80% des actions à droit de vote. Donc,
mais il est quand même, c'est quand même lui qui a le plus d'actions dans le...
C'est le propriétaire, l'actionnaire c'est majoritaire, ça, c'est ça. Et c'est celui qui pourrait donner, qui pourrait garder un droit de veto sur une grosse transaction entourant la WWE. Mais dans le day-to-day, là, il est plus impliqué, Vince. Il est plus impliqué dans les scénarios, il est plus impliqué dans les embauches, dans les histoires, dans les pushes que les lutteurs, lutteuses pourraient avoir. Et lundi, on a eu un paquet de nominations. On a annoncé premièrement que Stephanie McMahon et Nick Khan étaient pour être les deux co-PDG de la compagnie. Moi, je pense que c'est une excellente idée parce que t'as Nick Khan qui est beaucoup plus...
Tu veux mettre une femme aussi dans cette position-là qui est très compétente puis qui est
bien vue du milieu des affaires, qui est une McMahon aussi.
Exactement.
Et qui, elle, a plus les connaissances au niveau lutte. Puis t'as Nick Khan qui, lui, a plus de connaissances au niveau, au niveau affaires, au niveau négociation, au niveau à tout ce niveau-là. Donc, c'est un bon mix d'avoir ces deux personnes-là. Et, qui était pour remplacer... Vendredi, on se demandait qui était pour remplacer Vince à la tête du créatif, mais lundi, on a su que c'était Paul Levesque, aussi connu, bien sûr, sous le nom de Triple H.
Tu sais, il a annoncé ça le matin, créé un peu de hype pour le Raw du soir.
Absolument.
C'est toute une stratégie qu'ils ont faite, là.
Mais t'sais. Ça, c'est correct.
Oui.
Ça, c'est correct. Mais la compagnie doit être capable de se sortir de ce scandale-là. Il fallait qu'elle évite certaines choses.
Ce que je veux dire, c'est que les gens... Moi, je lisais des choses sur Internet, je sais comme à quel point vous êtes dupes. Vous êtes dupe, comme si c'est les décisions qui sont prises du jour au lendemain.
Non.
Ça devait être su au début de la semaine que Vince allait se retirer à la fin, que la bourse ferme le vendredi.
Ben oui, ça a été annoncé après 16h, parce que la bourse ferme à 16h le vendredi, donc il pouvait pas y avoir de mouvement dans le prix de l'action. Et ça donnait le week-end aux gens pour un peu peser le pour et le contre de tout ça.
Ouais, exact.
Qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'à la fin de la journée du lundi, il y avait une augmentation de 8% de l'action. Ça. Parce que les gens, parce que Wall Street, c'est de la spéculation, la bourse, c'est de la spéculation Wall Street. Et là, les gens pensent que sans Vince McMahon, les possibilités de vendre la compagnie sont plus élevées. Donc, à ce moment-là, l'action a monté. C'est ça la raison derrière. L'action a redescendu depuis, mais entre vendredi...
Mais pas beaucoup, là.
Mais quand même. Entre vendredi...
Dans ce qui, ça n'a pas descendu en bas de ce que c'était avant.
C'est ça. C'est entre ça vendredi et aujourd'hui, on parle d'une augmentation quand même de 2,8%.
C'est ça.
Donc, les gens pensaient, parce que, bon, la WWE, là, dans ses risques, là, sur son site corporatif, là, il y a il y a quelque chose qui parle des différents risques. Et un de ces risques-là, c'était Vince McMahon. C'était marqué, là, noir sur blanc. La journée de Vince McMahon ne travaillera plus ou se retirera. Ben, ça se pourrait que le produit ne soit plus le même. C'était dans les facteurs de risque de la compagnie.
C'est fou, ça.
C'est fou. Quand on pense que, dans le fond, là, quand on connaît le moindrement, quand on suit le moindrement la WWE, la journée de Vince McMahon va quitter. C'est pas vrai que la WWE va planter du nez.
Au contraire. Tout le monde parlait de la WWE. J'écoutais un podcast de sport.
Ouais.
Ça parlait de Vince McMahon. C'est sûr que c'était pas aussi détaillé que quand vous écoutez un podcast comme nous. Mais puis Vince est encore vu comme un super-héros. Là.
Ben, c'est ça.
Il y a ça aussi. Puis tu sais, le vendredi...
À l'annonce de son départ, il y a eu beaucoup de lutteurs, de lutteuses qui ont fait des publications.
Juste Stéphanie qui allait ouvrir SmackDown. SmackDown?
Ben ça, là, OK. Bon.
C'est comme si quelqu'un était mort, là, puis elle venait de...
Un lutteur, une lutteuse, pour qui Vince a été généreux, pour qui Vince a donné une job, qui le remercie, OK, ça, je veux dire, je suis capable de comprendre.
Non, puis tu sais, c'est sur Twitter. C'est pas la même chose que sur Fox à la télé.
Exact. Mais là, Stéphanie McMahon...
C'était propagande!
Stéphanie McMahon, qui est bon, la nouvelle... Oublions qu'elle est la fille, là, de Vince.
Ouais.
Elle est la co-PDG à ce moment-là. C'est une femme. Son père est quand même accusé d'avoir agressé des femmes, là.
Ouais.
Et elle s'en va à SmackDown, à Fox. Et elle... lui fait, comme tu dis, là, on dirait c'était
un hommage.
Et à la fin, elle demande à la foule de chanter « Merci Vince ». Honnêtement,
c'était malaisant.
Je me serais gardé une petite gêne.
Mais je trouve que c'était plus malaisant que Titus.
Oui, ah ben oui, absolument.
Puis, tu sais, puis c'était la même semaine, on a eu Titus lundi, on a eu Stéphanie vendredi.
Moi là, ça, j'ai écrit deux, vous allez lire ça si vous voulez avoir encore plus de détails, mais vendredi et lundi, j'ai écrit deux blogs sur le tvsport.ca. Et dans celui de samedi matin et lundi plutôt. Dans celui de samedi matin, Kev, tu sais à quoi j'ai fait référence, Stéphanie qui vante les mérites de même de Vince?
Non.
Et il y a des gens qui sont pas d'accord, mais c'est pas le même crime, là. Mais... je veux juste que vous imaginez, là, pour le Québec, là, ce que c'est. C'est l'équivalent que si Véro, elle avait demandé à son public, à la suite de ce qui s'est passé avec son père il y a des années.
Ah ouais, je comprends.
De demander à son public de partir un chant de Merci Guy.
Ouais.
C'est le même malaise. Ça n'aurait jamais passé. Je veux dire, elle n'a pas fait ça. Elle n'aurait jamais fait ça et ça n'aurait jamais passé si elle avait eu l'idée de faire ça, vous comprenez? Mais là, parce que c'est la WWE, parce que c'est les McMahon, on dirait que fait différemment.
Il y a quand même une grosse différence, parce que l'autre, il avait été accusé, Vince, c'est encore...
Je comprends.
Puis tout le monde... Bon, il serait pas retiré si c'était pas ça.
Mais je veux dire, s'il y avait pas un fond de vérité dans ce qui
Mais lui, il l'avouera jamais. Fait que lui, il joue la game de « j'ai pris ma retraite », mais on sait pourquoi il a pris sa retraite. Parce que la personne dupe pense qu'il a pris sa retraite et non
je
à cause des allégations.
Mais la WWE a clairement dans un des rapports, c'est un rapport qui s'appelle 8K là, qui est envoyé au SEC, le rapport de la WWE là, stipule que Vince
de l'enquête indépendante
a démissionné.
C'est ça.
C'est un rapport d'événement, en fait, qui doit être rempli. Non, c'est un rapport qui doit... C'est pas l'enquête.
OK, c'est ça.
Toute compagnie publique doit envoyer un rapport au SEC et à ses actionnaires lorsqu'il y a des événements qui pourraient être importants et qui viennent changer un peu la configuration de la compagnie.
Ouais.
Dans ce rapport-là, la WWE, là, pas un journaliste, pas une enquête, pas la WWE, stipule que Vince a démissionné de son poste et qu'il n'est pas parti à la retraite. Ça, c'est le spin que Vince a voulu donner à son départ. Puis c'est correct, là, je veux dire, c'est correct dans le sens que il y a un PR en arrière de ça qui a dit, bon, OK, tu vas dire que tu prends ta retraite, dis pas que tu démissionnes, ça va mieux paraître. C'est toute une game de PR, là. Il y a des compagnies qui sont embauchées, là, pour faire du damage control de cette façon-là. Mais je trouve juste ça, j'ai eu un malaise. Stéphanie, j'ai vraiment eu un malaise. Je peux comprendre le lutteur, la lutteuse, même la lutteuse, qui a jamais eu de problème avec Vince, ouais, qui a jamais, heureusement, qui a pas fait partie de ces victimes-là. Et j'ai pas de problème à ce que cette personne-là remercie Vince de lui avoir donné une job, parce que pour vrai, je veux dire, l'héritage de Vince McMahon va être entaché à jamais. Mais en même...
Les gens vont bien. 100%.
Je suis pas sûr que les gens vont
100%,
bien. 100%. Je suis pas sûr parce que c'est la cause de son départ, Kev.
100% les gens vont bien.
Non.
C'est pourquoi? Parce que j'écoute Boston Open, j'ai écouté plein de podcasts de lutteurs, ouais, qui parlent de lui. Ouais. Puis il passe en dessous du tapis les allégations. Mais parce que c'est des allégations, parce qu'il y a pas, tu sais,
mais attends, je dis pas ce qu'il faut faire. L'enquête est pas finie non plus, on sait pas ce qui va sortir.
À date d'aujourd'hui, ouais, les gens vont bien, parce que c'est comme ça, on est les dans l'ère du 2022, si c'est pas genre
Mais les gens, ça dépend de qui tu dis les gens. Moi, j'oublierai pas.
Non, mais parce que toi,
les journalistes, les historiens de lutte oublieront pas.
Ouais, mais les gens, c'est pas toi.
La personne qui écrit la biographie non autorisée de Vince, elle l'oubliera,
oui,
pas.
Oui, mais c'est pas, t'es pas les gens. Ça, c'est pas les gens. Ben, les gens, c'est les personnes qui ont chanté Thank You Vince à l'arena.
Hey, ça, là. Tiens. Mais oui, mais ils l'ont chanté avant que Stéphanie leur demande.
Mais c'est
de
ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, les gens vont oublier.
Mais en tout cas, son héritage va quand même.
Puis je dis pas que c'est bien.
Il y a quand même un œil au beurre noir, son héritage, là, dans mon livre à moi.
100%.
Mais on peut pas non plus oublier les bons coups qu'il a fait. Parce que, oui, c'est vrai, sans Vince McMahon, le portrait de la lutte professionnelle dans le monde est complètement différent.
On n'a pas le travail qu'on fait aujourd'hui.
Ben non, tu sais, pendant 40 ans, là, il a acheté de son père en 82, il était capable de finaliser le dernier paiement, puis son père, là, il avait été rough, là. Si Vince manquait un seul des quatre paiements, il reprenait la compagnie, puis il remboursait même pas ce qu'il avait déjà payé. Et Vince, au dernier paiement, il était capable de payer son père et ses partenaires d'affaires. Il a créé Titan Sports avec Linda. Et après ça, ben, il a pris la balle, puis il avait une vision, puis il a été le premier. C'était pas le premier à essayer de faire de son produit un produit national. Le câble arrivait, plein de gens ont vu ce que le câble était pour donner, et plusieurs avaient cette vision-là. Vince a été le premier à le réaliser. Sans Vince, probablement quelqu'un d'autre aurait réussi à le faire. Mais est-ce qu'il y avait la même drive, la même vision de Vince? On ne le saura jamais, mais c'est sans aucun doute Vince qui a mené, qui a vraiment sorti la lutte d'un sport un peu plus...
local.
Ben un peu, ou territorial.
Ou ouais, territorial.
Et il lui a donné surtout une couche de divertissement. T'sais, dès WrestleMania, WrestleMania a changé la façon de voir la lutte aussi. Là. C'était un gros show à grand déploiement avec Mohamed Ali, avec Liberace, avec... bon, je pense que Billy Martin était là. C'était gros, là. C'était vraiment, vraiment gros. Et évidemment, WrestleMania 3 a concrétisé, oui, tout ça. Mais en bout de ligne, c'est vraiment... Il a changé la face de la lutte professionnelle. Il y a combien de vedettes là qui seraient pas devenues des vedettes? Tu sais, Hogan, Undertaker, qui est d'après moi le plus beau personnage de l'histoire de la WWE, jamais créé par Vince, Bret, Shawn, Cena, je veux dire, la liste Macho Man, la liste est longue, et longue, et longue, et longue. Donc, il y a un héritage qui est quand même très, très là pour Vince, mais c'est sûr que là, ben, il y a un œil au beurre noir. Il y a un œil au beurre noir à ça. Puis, je pense pas qu'il y a personne qui aurait voulu que Vince quitte de cette façon-là. Encore moins, évidemment, les victimes qu'il a fait. Et tu sais, j'ai eu une réflexion dans ma chronique. Tu sais, l'arbitre qu'on a parlé ici, là, Rita Chatterton, Rita Mary, imagine si les gens l'avaient cru à ce moment-là. Parce que dans ma chronique, je voulais donner une voix aux victimes aussi. Là. C'était important pour moi. Puis je me suis dit à un moment donné, hey, imagine si les gens l'avaient cru à ce moment-là. Ah. Oui, Vince serait peut-être plus déjà là depuis longtemps, mais il aurait peut-être pas fait autant de victimes depuis. Donc, ça va être un héritage un peu comme Fabulous Moolah. Hein, ça va être un héritage un peu plus compliqué, je pense, pour Vince McMahon. Lié à ça, bon, évidemment, il y a plein d'autres nouvelles. Brock Lesnar, vendredi, qui, à l'annonce du départ de Vince, a décidé de s'en aller.
Ouais.
Et là, ben, c'était la panique totale, parce que une semaine après, il est à SummerSlam, hein, contre Roman. Ouais. Donc, bon, on a réussi à contacter Brock, on a réussi à le convaincre de revenir. À 8h30, il était de retour dans l'aréna, et c'est pour ça qu'il a été capable de faire une présence à la toute fin du show de SmackDown. Mais il avait quitté les prémices. Là. Ouais. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'après SummerSlam, on va revoir Brock. Parce que Brock... Il est très fidèle à Vince.
If he's gone, I'm gone.
Exactement. C'est ce qu'il a dit. S'il est parti, je m'en vais moi aussi. C'est beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de loyauté envers Vince. Ben, à tort ou à raison.
C'est son boy, c'est
son droit. Puis s'il décide d'arrêter de lutter, ben il décidera d'arrêter de lutter. Triple H maintenant. Bon, Triple H, qui dans le meeting avec les lutteurs, lutteuses lundi, a dit qu'il voulait avoir plus, qu'il voulait donner plus de transparence avec l'équipe créative. Il voulait également, il voulait que les gens aient du plaisir.
Ouais.
Et le meeting a été vu de façon très, très, très positive. Là, les gens, si vous avez écouté Raw lundi, faites comme, ah ouais, c'est ça, ça va donner Triple H. Non, là, wow, là. Tout changera pas du jour au lendemain.
Ben, j'ai vu quelques trucs.
Et le show était déjà, passablement, déjà écrit. Là.
Ouais, mais ça, je suis pas d'accord. Parce que, combien de fois qu'on a vu Vince réécrire un show trois heures avant?
Mais d'un, c'est pas une bonne idée, puis je pense que ça va arrêter.
Je comprends que c'est pas une bonne
idée. T'es à une semaine de SummerSlam, t'es un peu plus limité dans ce que tu peux faire.
Triple H, c'est pas lundi qu'il a appris qu'il allait faire le show, là.
C'est pas ça que je veux dire. T'es à une semaine de SummerSlam.
Je comprends pas.
Tu peux pas tout. Après SummerSlam, là, ça va être son show.
Je comprends, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que de dire que le show était écrit, qu'il pouvait pas le changer, je suis pas d'accord.
Je dis pas qu'il peut pas le changer, mais à une semaine de SummerSlam, t'es un peu plus limité dans ce que tu peux
faire.
Oui,
mais il aurait pu.
Tu peux pas tout scraper, là.
Je te dis pas qu'il peut tout scraper puis qu'il change le main event de SummerSlam, mais tu peux racheter ta twist sur certains trucs. Il y a certains trucs qui, pour moi, ça faisait aucun sens que. Mettons Austin Theory, là. Okay? Ouais. C'est un heel.
Oui.
Fait qu'il rentre dans le ring devant les trois partenaires Bloodline. Il a peur de rien. How?
Ben, il a peur de rien. Il les a pas attaqués quand même.
Non, mais il est rentré dans le ring avec les trois partenaires qui ont six ceintures. No sense. Miz, c'est un heel. Le plus chicken shit heel de tous les temps. Première affaire qu'on voit, il s'en va attaquer Logan Paul. Genre, il court après.
Mais moi, j'aimais ça qu'on commence avec un.
Je suis d'accord, on commence avec un brawl. C'était nouveau. Mais ça aurait dû être Logan Paul qui court sur Miz. Pas Miz qui est le heel qui court sur Logan Paul.
Je comprends. Je vais juste dire que je pense pas qu'on peut juger Triple H sur un show. C'est son premier. Puis, à une semaine de SummerSlam, pour moi, ce show-là compte pas. Après SummerSlam, c'est là qu'on va pouvoir commencer à voir qu'est-ce que Triple H va amener.
Je suis d'accord, mais mon point, c'est que le show, je comprends qu'il a été écrit avant. Le show était shit avant. C'est toi qui rentres. C'est arrange des trucs. C'est tout. Il a pas arrangé les trucs.
Mais c'est correct. Moi, ça me dérange pas. Juste à SummerSlam, là, il peut faire ce qu'il veut. Après SummerSlam, c'est là que moi, je vais voir ça.
Parce que c'est le premier Raw sans Vince. Moi, j'étais excité d'écouter Raw.
Ouais.
J'ai écouté les deux premiers. J'ai écouté le segment avec Logan Paul puis Miz. Je vais OK, c'est bien. Mais j'étais pas content de qu'est-ce que j'ai dit.
Ouais.
Après ça, j'ai écouté la promo de Roman. J'ai comme, c'est bon. Theory arrive, il rentre dans le ring. J'ai dit, pour faire quoi? Puis après ça, il se fait attaquer, puis il réplique comme si c'est le babyface. Austin Theory était babyface dans le segment.
Peut-être que la vision de Triple H après SummerSlam, c'est d'avoir Theory babyface.
Après ça, il y a Chicken Shit Heel dans le main event.
Je comprends. Regarde, moi là, pour moi...
It doesn't make sense!
Moi là, si je suis Triple H, là, ce show-là, là, je regarde Bruce Pritchard, là, puis j'ai dit, Bruce...
Ben, c'est une occasion perdue.
Gère le show, on va se rendre à SummerSlam, puis après SummerSlam, là, je vais commencer à prendre un peu plus les reins.
C'est une occasion perdue.
Ben, moi, si sur le long terme, il y a du changement, moi, je pense pas que ce show-là va changer.
Je dis pas que ça va changer quoi que ce soit, je dis que c'est une occasion perdue.
Ben, une occasion perdue, pourquoi?
Ben, une occasion perdue parce que les gens parlaient de Raw. La raison pourquoi ils l'ont annoncé à 9h du matin, c'est pour créer de l'anticipation. C'est pour créer de l'anticipation le soir.
Oui,
c'est pour
ça qu'il a marché. Ça a marché parce que les codes d'écoute, autant de SmackDown que de Raw, ils ont été à la hausse.
Mais exact. Fait qu'il y a plus de gens qui avaient des yeux sur le produit. Ils nous ont donné le même produit exact. La raison pourquoi il y avait plus de yeux sur le produit, parce que les gens savaient qu'on s'attendait à avoir un show mené par Triple H.
Oui.
C'est pas ça qu'on a eu. On a eu un show comme tous les lundis.
Ben, moi, je m'attendais pas à un show mené par Triple H. Ben, moi, je m'attendais.
Je te dis pas de changer toutes les overalls puis de tout changer les trucs. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que de changer certains trucs, de updater. Puis je te dis pas de changer les storylines. Mais des DQ pour faire quoi? Des DQ de quoi?
Ben, moi, je
pense. Encore comme d'habitude.
Ben oui.
Ben c'est pour moi, c'est une occasion perdue. Ben, c'est tout ce que je dis.
C'est correct. On vous a demandé sur Twitter de nous envoyer des... T'as-tu toujours chose à dire par rapport à l'affaire de Vince? On vous a demandé de nous envoyer vos questions. Fait que comme c'est rare qu'on fait des questions du public, on a voulu que vous concentriez sur les questions regardant Vince McMahon. Donc, on va y aller, puis si c'est des sujets qu'on a déjà parlé, ben on va les passer. On a peut-être déjà répondu à certaines de vos questions. Donc, est-ce que Triple H et HBK vont quand même garder la nouvelle mission de NXT qui a été enclenchée comme étant le club école et non le troisième brand comme avant, ou s'ils vont mettre la hache et revenir à l'ancien régime plus indie qui pourrait être davantage un produit comme AEW?
100%.
Ben, 100%. Moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'il va y avoir une meilleure, je crois, cohésion entre NXT et WWE. Tu sais, on les buildait à NXT, on les amenait à WWE, on change les noms, on leur donne pas le même push.
C'est vrai.
Là, Triple H et Shawn Michaels vont travailler ensemble là-dedans. Vince, là, il voyait un talent, ah, je l'aime, il arrivait sur le main roster et il faisait un peu n'importe quoi avec lui. Les gars étaient plus over, les filles étaient plus over à NXT qu'à WWE. Ouais. Ça, c'est pas normal. Faut que tu sais, c'est comme un gars de la Ligue américaine. S'il score 50 buts dans la Ligue américaine, puis tu le fais jouer 3 minutes par match dans le show, il y a quelque chose qui marche pas. Donc, je pense que là, il va avoir un meilleur travail d'équipe entre HBK et Triple H.
Mais je pense que AEW va devenir que NXT va redevenir le Black and Gold parce que Triple H va pas prendre le fait que AEW les a battus comme ça. Moi, là, je pense que Triple H va ramener le Wednesday Night War. Je te dis pas jour 1, je te dis pas dans 3 mois.
Faut juste qu'il le fasse pour les bonnes raisons. Si son but, c'est de battre AEW, c'est pas la bonne raison. Si son but, c'est d'imposer sa vision à lui de ce que NXT devrait être, parce que c'était ça, sa vision, ça n'a jamais été NXT 2.0, ça, c'est une bonne raison. Si, en même temps, ça arrive qu'il bat AEW, ben, c'est un bonus. Mais je pense pas que ça doit être ça, sa mission. Je pense que sa mission, c'est d'offrir le meilleur produit qu'il peut avec NXT et d'avoir sa vision du produit.
Donc, 100%. Par contre, ça va aussi jouer dans les agents libres.
Ah ben oui!
Et ça, pour moi, c'est la part de Triple H, pour moi, fait le plus mal à AEW au niveau des agents libres.
Un gars comme Johnny Gargano, par exemple, pourrait être tenté de revenir dans le giron de la WWE.
Gars comme Scott Patnett
et Candice LeRae.
Allen Angel. Qui fit pas à AEW, mais à NXT, il fitrait, là.
Et ça se pourrait.
Un Patnett Dark Order, là.
Stu Grayson.
Stu Grayson. Fitait plus à AEW, mais à NXT, il fitrait.
Exact.
Fait que moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Puis là, peut-être que Tony Khan va y repenser à deux fois avant de laisser aller son monde pour les envoyer à NXT.
Ça va avoir un changement, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que vous croyez que Vince aura une quelconque influence sur les décisions administratives ou créatives, puisqu'il possède encore ses 80% de la WWE, un dirigeant caché dans l'ombre? Est-ce que ça, c'est dans un premier temps. Est-ce que Stephanie et Triple H vont lui racheter ses parts? 80%, là, oubliez pas, là, c'est pas 80% des parts, c'est une trentaine de pourcents. Je pense que c'est 32 ou 33. 80%, c'est parce qu'il y a deux types d'actions. Les actions de classe B, c'est les actions à droit de vote. Donc, si, mettons, la compagnie est pour être vendue, ben, à ce moment-là, Vince a 80% de la décision. Donc, ça prend 100% pour que admettons, ça prend l'unanimité pour que la compagnie soit vendue ou ne serait-ce que la majorité. Ben, Vince, ça passe par lui. Et d'ailleurs, il y a des compagnies, là. Disney pourrait être intéressé, NBC pourrait être intéressé. Quelqu'un a parlé du Rock? Qui a peut-être pas l'argent lui seul, mais qui pourrait être à la tête d'un conglomérat qui achète la WWE. Là, il est pas, il a acheté la XFL, il aime la lutte, c'est pas impossible que The Rock achète la WWE. Mais tout ça pour dire que non, Vince McMahon là, puis on l'a peut-être souvent cette question là. Puis pour ceux qui pensent que Vince là va rester caché en arrière, puis il va continuer à diriger la WWE, c'est fini. C'est une compagnie publique là, qui peuvent pas niaiser avec ça. Vince Russo, là, ça a été fait avec Impact, là. On se rappelle, tu te rappelles?
Ouais.
Spike avait demandé à TNA que Vince Russo ne travaille plus pour la compagnie. Ils l'ont fait en catimini. Ça s'est su. La première chose que Spike a fait, ils ont droppé TNA.
Ben, ils sont tout le monde en affaire, tu mets tout le monde en mode après.
Donc là, c'est une compagnie publique. Il n'est plus impliqué, Vince. Il n'est plus impliqué. Est-ce que ça empêche Stéphanie d'appeler son père et d'y demander un conseil? Non, c'est sûr que non. Est-ce que c'est lui qui va diriger puis que Stéphanie et Triple H est des pantins? Non, c'est pas ça non plus. Stéphanie et Triple H, ça fait longtemps qu'ils attendent cette opportunité-là. Et évidemment, elle arrive dans des circonstances tristes et pas souhaitées. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'ils attendent d'avoir leur chance. Ils vont pas demander à Vince quoi faire tout le temps. Ils vont vouloir avoir leur vision à eux. Et c'est ça qu'ils vont faire. Donc, non, Vince ne dirigera pas la WWE par en arrière. Ça, c'est une compagnie publique. Si ça se savait, il sera encore dans la merde. Et là, à un moment donné, la WWE va vouloir qu'il y ait des bonnes nouvelles de son côté. Pour l'instant, l'impact sera ressenti. Mais d'après vous, OK, bon, pour l'instant, l'impact sera ressenti sur l'aura de Vince McMahon, surtout pour les détracteurs. Mais d'après vous, dans 20 ans, qui est-ce qui se rappellera de cette histoire? Toi, tu penses que... Moi, je pense que ça va être les
historiens vont s'en rappeler.
Les journalistes.
Les gens, en général.
Ça se peut.
Non.
Essayez, s'il vous plaît.
Je dis pas que c'est bien, je rappelle. Je vous dis juste que c'est ça, la vie de 2000... des 2000.
Essayez, s'il vous plaît, de me convaincre que c'est vraiment la fin. Connaissant le personnage, il va trouver le moyen de revenir. Tant que Vince est vivant, tout peut arriver. Non. Il revient pas. Je sais pas quoi te dire d'autre
puis,
que...
Puis pour
c'est
vrai,
une compagnie publique, il reviendra
mais
pas,
c'est parce
Vince
que
McMahon.
L'affaire, là, c'est qu'il a 77 ans. Là.
Oui.
Même si on veut laisser le temps aller les choses, c'est un monsieur qui a pas beaucoup de temps.
Est-ce que...
Puis ils vont la ramener, si mettons à 80 ans, 81, 82.
Mettons Hall of Fame,
exactement,
tu penses qu'ils vont le ramener?
100%.
Ils vont avoir l'audace de le ramener 100%. Dans un Hall of Fame?
Ils ont eu l'audace de lui faire chanter Thank You Vince.
Mais c'est différent.
Quand ils sont dans l'œil du tourbillon.
Mais c'est différent entre ça et lui se présenter. Mais
ils vont avoir une ovation debout.
Mais ça sera pas cette année.
Ça, je te dis, il va avoir 81, 82, 83. Ils vont le rentrer dans le Hall of Fame. Pis...
Ça, c'est pas impossible. Mais est-ce qu'il va revenir
non.
dans la compagnie?
Non.
Est-ce qu'il va revenir comme un personnage régulier? Non plus.
Puis ben, les gens accepteraient pas.
Est-ce que Triple H et Stéphanie vont laisser les lutteurs plus de créativité à leurs promos et personnages?
Moi, je pense que oui. Parce que moi, je pense que la promo de Ray était pas scripté comme d'habitude.
C'est possible. Moi, je pense qu'ils vont donner la balle à ceux qui sont capables de l'avoir. Un Kevin Owens, là, ouais. il a déjà plus un peu, toujours un peu plus de liberté.
Ouais.
Je pense qu'ils vont avoir confiance à leurs joueurs qui sont capables de livrer la marchandise
ouais.
en étant un peu moins scripté. Je pense qu'on va voir des changements. Là, c'est marqué sur Triple H chez Stéphanie. C'est beaucoup plus Triple H chez Stéphanie. Là. Stéphanie va quand même être là, mais c'est quand même pas elle qui approuve les scripts ou qui approuve les scénarios. Ça va être la job de Triple H. Est-ce que des lutteurs ou lutteuses pourraient revenir à la WWE? Pensez-vous que le booking va être meilleur? Oui et oui. C'est les souhaits, en tout cas.
Ben oui, le booking va être meilleur.
Le booking va être meilleur. Est-ce que le lutteur ou lutteuse pourrait revenir? Ben, c'est pas impossible.
Ben oui, c'est
pas impossible.
Si Hulk Hogan est apparu après le vidéo qui est sorti.
Mais ça n'a rien à voir avec ça. Chris Jericho pourrait revenir, par exemple?
Ben pourquoi pas?
Ben non, mais sous Vince McMahon. Ben quoi de Chris?
Ben oui, Vince, Chris serait revenu sous Vince.
Cody est revenu.
Cody est revenu.
Oui, les gens parlaient d'Adam Cole, mais Adam Cole, il reviendra pas tout de suite. Il est signé pour 5 ans. Mais est-ce que quelqu'un qui a quitté
Adam Cole a signé 5 ans,
ouais,
man.
Ça, je le savais, ouais. Si un lutteur est parti à cause du mauvais booking, puis parce que Vince McMahon ne l'utilisait pas ou voyait pas en lui, tu sais, un Claudio Castagnoli, par exemple.
Mais je pense pas qu'il aurait fleuri dans le Triple H, parce qu'il est comme, il est casé dans une case.
Non, mais on parle, c'est un exemple. Okay. Parce que je veux dire, un lutteur qui est parti parce que Vince voyait rien en lui, il s'en va à AEW, son contrat fini. Ben, c'est sûr qu'il va lancer une perche à Triple H.
Ben oui, 100%.
Si Triple H dit non, mais regarde, Vince voyait peut-être rien en toi, là, mais moi, là, tu sais, j'ai toujours poussé, puis tu sais, je t'ai regardé, oui, je veux que tu reviennes, ben ça se peut, ça arrive, ça. Ouais. C'est sûr que ça va venir changer ça. Croyez-vous qu'avec le départ de Vince, Sasha pourrait revenir à la télé, puisqu'elle a travaillé avec Triple H à NXT? Sasha Banks, c'est un problème différent. Premièrement, on sait toujours pas si elle a officiellement quitté.
Ben, s'il y a quelqu'un qui peut mettre du sens dans la tête de Sasha Banks et Triple H?
Ben oui, parce que là, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste la haute direction. C'est que le vestiaire là est un peu contre Sasha.
Ouais.
Ou en tout cas, une partie du vestiaire.
Mais ça, c'est la vie. Sasha arrange.
Ben, exactement. Triple H, par contre...
Faut pas qu'il prenne une décision à compte tenu du vestiaire.
Non, mais faut que Triple H ait une bonne discussion
exact,
avec elle.
Exact.
Puis qu'il convainque aussi le vestiaire que c'est une bonne idée de la ramener, exact. Que ça sera pas une pomme pourrite. Tu comprends?
Ben, y a-tu vraiment besoin de convaincre le vestiaire?
Ben, je pense que s'il veut une harmonie dans son vestiaire, c'est important.
Mais t'auras pas d'harmonie dans ton vestiaire.
Mais t'as espoir que tu vas avoir une harmonie.
Moi, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire, c'est la lutte, là.
Si, on sait toujours pas, si elle est partie, elle est nulle part ailleurs, ben oui, Triple H pourrait essayer de la ramener. Est-ce que Shane McMahon pourrait revenir travailler avec sa sœur et son beau-frère? Shane n'a pas la meilleure des relations avec
c'est
Stéphanie.
C'est ça.
Ce qu'il a fait la dernière fois, ça l'a... Ça l'a déplu bien des gens. Donc, est-ce que oui, c'est une possibilité, mais en même temps, Shane a ses propres démons là-dedans.
Ouais.
Et lui, Shane, se voyait un jour comme étant le remplaçant de son père. Et là, ça sera, je veux dire, non seulement c'est pas le CEO, mais c'est pas lui qui est en charge du créatif. C'est sa sœur et son beau-frère. Donc, tu sais, je suis pas sûr qu'il va être dans la meilleure des dispositions.
J'aimerais tellement ça être dans les soupers de Noël, là. Au moins un.
Ou cette ou d'action famille, grâce, là. Ouais. Ouais.
Genre, ça doit être le bordel.
Il y a une télésérie à faire avec ça. Pensez-vous que ceci va ouvrir à des retours, si on en a parlé? Pensez-vous que les lutteurs comme Riddle vont pouvoir revenir à leur ancien nom? Matt Riddle, Austin Theory. Moi, je pense qu'il y aura des petits changements comme ouais. ça.
Mais ça va pas... Tu sais, dans le sens que ça, c'est des détails que... Je pense qu'on va même pas s'en rendre compte puis ça va juste revenir.
On se rend compte quand ils les enlèvent. C'est ça. On va s'en rendre compte.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que il y aura pas d'annonce, là.
Non.
Genre, on aura pas un papier ou un courriel pour nous dire il s'appelle plus Matt Riddle, c'est rendu Riddle.
Exact.
Ça va juste être comme, ils vont recommencer à l'appeler Matt Riddle à la télé.
Mais je pense qu'il y a des détails comme ça qui étaient des détails très, très Vince McMahon et beaucoup moins Triple H. Les noms, c'est une des choses. Est-ce que la WWE va quand même vouloir changer le nom de certains de ses talents pour les copyrights? Absolument. Ça changera pas. Est-ce qu'il va en avoir moins? Peut-être. Est-ce qu'il va y avoir moins de changements de nom comme ça à la Riddle, à la Theory? Probablement. Les commentateurs vont se faire beaucoup moins crier dans les oreilles.
Mm-hmm.
Tu sais, René Paquette l'a compté, là. Et tout le monde. Puis je pense que les commentateurs vont être bien meilleurs. Ça doit pas être cool. Nous, on travaille, Kev, là.
Ouais.
C'est paisible.
Ouais.
Tiens, on a Steph Simard là, qui va nous dire okay. laissez vivre le moment, les gars. Et ça, là, c'est une des rares. Ouais. Hein, puis c'est correct, on l'apprécie quand il nous. Mais ça s'appelle coacher ton équipe.
Ben oui.
Il nous crie jamais après dans les oreilles. Tu comprends? Et ces gars-là, et dans le cas de Ronnie, ces filles-là, se sont fait crier dans les oreilles après depuis des années et des années.
Ouais.
Ça n'arrivera plus. Mauro Ranallo, là, s'il était encore là, il serait le premier heureux en ce moment.
En fait, Mauro Ranallo, là. C'est peut-être quelqu'un qui est sur une liste d'appels en ce moment. Moi, je pense qu'il y a des listes d'appels en
ça
ce moment. Puis qu'il y a un certain William Regal qui regarde ça puis qui fait « God damn ».
Peut-être.
Il y a beaucoup de gens, là.
Peut-être.
Puis, Mauro Ranallo, c'est une chose. René Paquette, c'est une autre chose, là.
Moi aussi. Et il y a aussi la terminologie. Je pense que Triple H va être beaucoup plus ouvert à ce qu'il y ait des mots qui soient utilisés. Et que Vince, ça c'est une autre affaire que Vince.
Ouais.
C'est une affaire de Vince.
Ouais.
Le type d'humour, autiste qui vomit, là, je m'attends plus à ça. Là.
Mais t'sais,
t'as manqué ça, Fred.
Ouais. Mais tu sais,
4 juillet, il mange trop de hot dog puis il vomit dans le ring.
That's dirty!
Mais il y a aussi le fait que Triple H va rentrer où. Triple H va rentrer où c'est TV 14. Et ça, c'est un avantage pour Triple H.
Aussi.
Parce qu'il a fait Black and Gold dans le PG era.
Ouais.
Bro, il y a du sang qui va arriver sur ce TV show-là à la AEW comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Qui va bénéficier rapidement de Triple H dans la créativité?
Tommaso Ciampa.
Oui. Kevin Owens.
Ouais.
Qui a toujours été un boys. Puis je pense que c'est quoi le mot que je cherche? C'est pas un hasard qu'on n'a pas vu Kevin à Raw.
Ouais.
Parce que de toute façon, il va faire quoi? SummerSlam? Il est pas à SummerSlam.
Exact.
C'est dans une semaine. Garde-le pour après ton après SummerSlam, tu sais.
Puis ça va nous faire oublier Ezekiel. On n'a pas vu Ezekiel non plus à Raw.
Non. est-ce que cela pourrait faire changer la décision d'MJF? MJF va aller où il y a le plus d'argent.
Ouais.
Puis je pense que l'expérience Cody avait déjà prouvé que si Vince voulait vraiment, il était pour utiliser les gars des EW de la bonne façon.
Mais
avec Triple H, c'est juste encore plus certain.
C'est ça. Avec, tu sais, mettons, j'ai le choix entre WWE Money puis Triple H qui book.
En plus. Tu sais, un Kenny Omega, là.
Booké, là.
Son contrat se finit à la fin de l'année, Kenny, là.
Je m'excuse, là, mais moi, je suis MJF. C'est pas l'argent, là.
C'est
WWE, c'est global.
Ouais. Ouais.
Puis tu sais que le partner va te laisser aller faire ce que tu veux à la télé. Dude.
Selon vous, nonobstant les accusations qui ont forcé le départ de Vince, il aurait dû quitter la compagnie depuis combien de temps? 2, 5, 10 ans? Mais, c'est dur à dire, mais...
Ben, pourquoi il aurait dû quitter la compagnie depuis 2, 5, 10 ans?
À cause principalement du booking. On savait qu'il avait perdu la touche.
Ils n'ont jamais fait plus d'argent que maintenant. Fait que pourquoi il serait parti?
Je pense que la question est plus au niveau du booking.
Non, je sais. Mais mettons, lui...
Est-ce qu'il aurait dû... Peut-être pas quitter la compagnie. J'ai amené une précision à sa question. Est-ce qu'il aurait dû quitter son poste de directeur de l'équipe créative?
Ben, moi, je réponds non, si je mets sa perspective à lui. Ils n'ont jamais fait plus d'argent que maintenant.
Ouais.
Ils n'ont jamais eu des plus gros contrats de télé, des shows que lui book, lui crée.
Mais en même temps, c'était pas à cause de son booking.
Ben, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Si je mène à sa position, il est comme le show que je crée, que je book, que je suis, les plus gros contrats télé. Si on m'enlève, qu'est-ce qui va arriver? Je vous dis pas que c'est ça la bonne façon.
De notre point de vue à nous, ben, moi, je pense qu'il y a 5 ans environ, là. Il y a 10 ans, Triple H, j'étais pas prêt. Faut pas oublier, là. Il y a 10 ans, il y avait personne qui était prêt à remplacer Vince.
Non, mais quand
il y a 5 ans, Triple H, je l'étais.
Ben, quand Sami Zayn s'est battu contre Shinsuke Nakamura, c'est là que je fais,
Exact. Est-ce que le départ de Vince va ouvrir la porte à des collaborations avec d'autres fédérations pour des shows dans un futur proche? Je suis pas sûr, moi, que le Forbidden Door WWE va embarquer là-dedans. Mettons Ric Flair, là, son show. Là.
Ouais.
Dans 2 ans d'ici, ce show-là arrivait. Est-ce que la WWE enverrait un match dans ce show-là? Ça, je verrais ça arriver. Tu sais, t'envoies 2 de tes gars juste pour fournir un combat. Ça, ils l'ont déjà fait dans le passé.
Du monde NXT, peut-être.
Peut-être, mais déjà là...
Dépendamment, c'est quoi le nombre...
Ou 2 gars qui ont un lien avec Ric Flair. Tu sais...
Ben, il envoie quand même Jeff Jarrett, là.
Ah, c'est pas fou.
Il envoie quand même déjà Jeff Jarrett en ce moment.
Est-ce qu'il envoie Jeff Jarrett ou Jeff Jarrett, vu qu'il est senior vice-président senior, il y a quelque chose dans son contrat qui lui permet d'accepter ça.
C'est sûr qu'il va falloir qu'il dédouane ça.
Ça, c'est sûr. T'as raison.
Puis Charlotte, elle va quand même être in attendance, puis tout le monde le sait d'avance qu'elle va être là.
Je pense que dans... Mais je pense pas qu'on va voir, mettons, WWE contre AEW.
Non, ça n'existait pas avant.
Ça n'existera pas maintenant. En tout cas, ça a déjà existé avec le Japon.
Mais ça ne m'étonnerait pas de voir un WWE New Japan.
Ah non.
Ça, pour vrai...
La relation est rendue trop forte, je pense, entre New Japan et AEW.
Hey, on est à une chicane de booking, là.
Mais je les
Il y avait de la chicane avant, là, puis tout était réglé.
Je les verrais plus avec Impact. Même ça les... C'est parce que... Faut pas... Quand on pense à ça... Là,
mais ils n'ont pas besoin de ça.
J'allais dire, ça leur apporte absolument rien.
Je vois pas pourquoi ils devraient faire un Forbidden Door. Ils n'en ont pas besoin.
Ils n'en ont pas besoin.
Comme de... C'est quoi le over-under que Ric Flair apparaît? Ric Flair apparaît à Raw. Ric Flair va apparaître à Raw dans même pas un an.
Probablement. Une fois les choses se seront calmées, pensez-vous qu'il serait possible que Vince revienne dans le décor? Non, on a déjà répondu.
Yo, le podcast est long.
Bon, on sait.
Shit.
On sait. Non, ça va. Où est Shane? Où est Shane McMahon? Shane McMahon a été congédié de la compagnie.
Il est au match de football de son gars.
Attendez, c'est parce que je l'ai lu au fur et à mesure. Ça c'est bien. Avec ce scandale, avant ce scandale, d'après vous, Vince est à combien d'années réalistiquement de la retraite?
Mais il a pris sa retraite.
Non, mais avant. Mettons, là, il n'y aurait pas eu de scandale.
Il n'aurait pas pris de retraite, il serait mort.
Moi, je pense que dans 10 ans, il aurait encore été là. Tant que son cerveau aurait été fonctionnel.
Il serait resté, il aurait menti, il serait mort, là.
Non, mais à un moment donné... Tu comprends? S'il commence un début d'Alzheimer ou de
démence,
il n'aurait pas été là. C'est ça que je veux dire.
OK, je comprends ce que tu veux dire.
Ça va. Qui, selon vous, verra son rôle ou son temps d'antenne s'amoindrir avec Triple H? Qui Vince voyait dans sa soupe que Triple H verra pas dans sa soupe?
Carmella.
Probablement. Au niveau des gars,
Bobby Lashley.
Madcap Moss.
Bobby Lashley, j'ai un peu peur que ça arrive, vu que c'est pas un Hunter Guy. C'est possible. Mais Triple H respecte le talent des gens, je pense. Puis Bobby Lashley s'est vraiment amélioré. Est-ce que ça pourrait affecter Miz?
Non, je pense pas.
Je pense pas, parce que Miz est tellement le meilleur heel de cette foot.
Ça pourrait-tu, tu sais, mettons, les deux Godland, là? Que là, j'oublie leur nom, celui qui
danse. Ah, Veer, puis Veer, puis
Shanky.
Ouais, mais en même temps, le patinet, le Jinder Mahal, c'était quand même dans le.
C'est vrai.
Tu sais, le main event avec Seth Rollins. Fait que.
Seth Rollins est un autre qui va bénéficier de Triple H.
Seth Rollins, là. Puis c'est juste de bénéficier de lui à tous les jours, dans le building, de 1 à 8 le lundi. Le patinet est là pour toi, là. Ouais. Tu sais, ça, c'est.
Quel est le souvenir, moment fessaillant que vous allez retenir de Vince? Mettons positif, là, évidemment. Là.
It was me, Austin!
It was me all along!
Ça, mais là, c'est un des bons.
Sa rivalité avec Stone Cold.
C'est
on pourra jamais oublier la rivalité avec Stone Cold.
On pourra jamais oublier le stunner de...
le stunner de Mania à Dallas cette année.
Ah, on pourrait faire un podcast sur Vince.
Ça va avoir été son dernier match et ça s'est fini avec un stunner de merde.
Queue de poisson. Mais si tu regardes la vidéo, tu sais pas, non. Le vidéo package, ils ont bien sauvé le stunner.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là? Il en reste quelques-unes. Êtes-vous excité au retour de Cody Rhodes pour voir son booking sous Paul Levesque? Ben, moi, je pense qu'il va être bien utilisé, mais il aurait été bien utilisé no matter what.
Il va être bien utilisé, mais là. Là, j'ai hâte de voir, là.
Ouais.
Parce que le partenaire qui trône, là.
Ouais.
Cody, c'est un partenaire Vince.
Oui.
C'est pas un partenaire Paul Levesque, là.
Non, mais
Paul Levesque respecte Cody.
Mais Cody,
c'est un partenaire Vince.
Hein, est-ce que selon vous, Bruce Pritchard va rester avec la compagnie? À court terme, oui. À long terme, non.
Non, parce qu'il va ramener son monde.
Ben oui, exactement.
Triple H, je vais mettre, c'est comme un nouveau coach qui arrive dans une nouvelle organisation.
Pas sûr qu'un gars comme Road Dogg pourrait revenir avec la compagnie.
Est-ce que son nom, Briscoe?
Briscoe est encore là, comme scout.
OK, mais moi, je le vois dans un rôle plus établi. Là.
Non, je pense plus à son âge.
Non, OK.
Mais écoute, ça, c'est mon opinion. Puis Briscoe, c'est un gars de Vince, plus que Triple H. Kevin Dunn, ça achève. Là.
Non.
Kevin Dunn, c'est un gars à Vince. Il est là depuis 84.
God, là.
Mais oui, je le sais. Les jump cuts, puis hey, écoute, je suis plus capable. Est-ce que, vu que Triple H va avoir le contrôle au niveau créatif, est-ce que vous croyez que certains lutteurs peuvent avoir du beef avec lui qui pourrait faire en sorte que ces lutteurs-là quittent? Mais je veux dire, c'est comme n'importe qui est en charge du créatif. Tu sais, avec le temps, là, tout le monde est content, mais avec le temps, il y a des gens qui ne seront pas satisfaits de leur utilisation. Là. Je veux dire, Triple H ne pourra pas satisfaire tout le monde. Ça va juste être sa vision à lui, puis on espère juste que sa vision va être meilleure que celle de son prédécesseur. Est-ce que Paul Heyman pourrait avoir un plus grand rôle avec la nouvelle direction? Je pense pas. Moi, je pense que Heyman est content du rôle qu'il a. Même si Brock s'en va, là, on l'a mis avec Roman. Il est impliqué dans certains matchs. Il donne son opinion. Mais je pense pas que la solution, c'est d'avoir Paul Heyman à la tête là, de
pas
l'équipe.
À la tête.
T'sais, pour remplacer Bruce Pritchard, par exemple. Je pense pas que c'est ça qui va arriver.
Non, mais
on a besoin d'une autre vision. Faut qu'il reste, puis je pense qu'il va rester. Il va rester.
Est-ce qu'on pourrait avoir un Freddie Prinze Jr. back?
Ben, ça dépend à quel point c'était. T'sais, Gabe Sapolsky, que Triple H avait amené à NXT à un moment donné. T'sais, il y a plein de noms comme ça qui vont être intéressants de voir qu'est-ce qui va arriver. Et je pense qu'il nous reste une question. Ah bon, il a répondu, c'était concernant Kevin Dunn. Donc, ça fait le tour des questions. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écrit. Je pense que ça rend le topo encore plus complet sur Vince McMahon. Oui, ça a été un long segment, mais bon, c'est peut-être la plus grosse nouvelle depuis que Vince a acheté la WCW, tu sais. Je veux dire, c'est une énorme nouvelle dans le monde de la lutte. Puis, ben, voyons voir ce que ça va donner. Mais, je sais pas si t'as lu mon article, mais dans mon article, j'ai dit « L'ère McMahon-Helmsley est de retour ». Tu sais, McMahon-Helmsley era, là, c'est eux autres. Là. C'est Stephanie puis Hunter qui sont maintenant les deux personnes les plus influentes à la WWE. Puis, ça fait des années qu'ils veulent avoir le ballon. ils l'ont. Voyons voir ce que ça va donner.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On fait le tour rapidement des autres nouvelles. Il y a des blessés, des retours à venir. Donc, Sami Zayn est blessé. Il s'est blessé à Money in the Bank, le fameux spot avec Madcap Moss que vous avez vu où ce qu'il l'a droppé sur une échelle.
Je suis retourné le regarder.
Ah non, écoute, c'est
criminel.
Non, écoute, ça n'a pas de sens. Moi, dès que j'ai vu le spot, j'ai dit, OK, ça va. Il y a quelque chose qui a cassé. Là, même si on le voit pas dans Sami par la suite, je savais qu'il est arrivé quelque chose. Donc, il espère être de retour dans les prochaines semaines. On lui souhaite, évidemment. Il espère être de retour pour Montréal, pour le SmackDown à Montréal et le House Show à Québec, bien évidemment. Du côté des AEW, bon, CM Punk, Kenny Omega, Adam Cole, Matt Jackson, tout le monde est blessé en ce moment. Tout le monde espère revenir pour All Out.
Pourquoi AEW a plus de blessés que WWE? Ça serait pas le style de lutte de AEW de commencer à les rattraper?
Ben, oui et non. Punk s'est blessé en jumpant dans la foule.
Punk, c'est Punk.
Kenny Omega, Adam Cole et les Young Bucks, ils ont 15 ans d'indies. Tu sais, je disais, Kevin et Sami, ils ont été souvent blessés, eux autres, aussi, à WWE, là.
Je comprends.
Quand t'as lutté pendant 15 ans sur les indies à vouloir te faire voir, à prendre des risques devant des 200-300 personnes, mais quand t'arrives dans le show, c'est sûr que ton corps réagit pas. Tu sais,
je trouve juste que je pense que c'est une réflexion à avoir pour tout le monde. Que est-ce que le style de lutte de AEW fait en sorte qu'il y a peut-être plus d'opportunités de blessures que...
Plus c'est risqué, plus tu t'exposes à des blessures.
Plus tu fais des risques à la télé comme ça.
Mais souvent, les blessures, c'est des manœuvres ben anodines.
Je sais, mais...
Que les gars ont fait 1000 fois dans leur vie. Fait que je pense que c'est un hasard. Je pense pas que c'est ça la raison. Mais est-ce que ça fait partie du problème?
Je pense que c'est un pensez-y bien, par exemple.
Je suis pas en désaccord avec ça. WrestleMania 40, 39 en 23, c'est à LA.
Ouais.
On va être là parce que c'est LA. Fred, tu viendras avec nous, t'aimes ça à LA. Et WrestleMania 40, ben là, on va pouvoir y aller toi, tu vas y aller en avion, pareil. Moi, je vais y aller en auto. C'est Philadelphie. Philadelphie. Je faisais ça avec Kevin pis Sammy. Aller-retour, Philadelphie, pour Ring of Honor. Aller-retour, là. Partait le matin, on revenait le soir.
Il va falloir que je m'achète un chandail des Flyers.
Non, parce que j'imagine que tu peux pas t'acheter un chandail des Flyers avant 2024.
Non, mais parce que je m'achète, quand je vais voir le show, je mets un chandail de la ville.
Ah.
Alors là, je mettrais pas un chandail des Eagles.
Pourquoi?
Ben, c'est du vomi.
76ers?
Ça dépend, ouais. Peut-être Allen Iverson. Je pourrais mettre un Allen Iverson.
Ou Julius Erving? Non. Dr. J?
Non, Allen Iverson.
OK.
Puis après ça...
Ben, les Flyers, ce serait qui? Lindros?
Tu veux quand il y en a, oui. Tu veux mettre un chandail d'Éric Lindros?
Gros star. S'il n'avait pas joué à Philadelphie, il serait pas autant de la renommée.
Mettre un Leclerc avant Lindros. Mettre un Recky avant Lindros.
OK. Je vais pas tourner avec Leclerc.
Un Obi Koubel.
Donc, WrestleMania 40 va être à Philadelphie les 6 et 7 avril 2024 au stade des Eagles au Lincoln Financial Field. Ça va être la première fois en 25 ans que WrestleMania va se dérouler à Philly. Donc, une bonne nouvelle pour les amateurs de lutte de l'Est qui aiment ça conduire, qui ont peut-être pas l'argent pour prendre un vol. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, il fera pas chaud. J'ai eu des commentaires. Ouais, ça sera stade à ciel ouvert. Mais oui, mais ça va être, c'était la même chose au New Jersey. En 2019 puis en 2013. Mm. La température n'est pas tellement différente de Philly puis du New Jersey. Jonathan Gresham, qui a quitté AEW Ring of Honor tout de suite après avoir perdu le titre au pay-per-view de Ring of Honor, Death Before Dishonor.
Ça faisait aucun sens, ça. J'étais pisse.
Mais en fait, il est parti, là, selon toute vraisemblance, il est parti parce qu'il était pas content de perdre le titre, d'aller premier dans le show.
Genre.
Et le temps que le match a eu. Ils ont eu 11 minutes. Puis, ça a été le premier match, un show, où sur 5 matchs ou 6 matchs, t'avais genre juste des défenses de titre, là, je pense.
Non, mais c'est un disrespect.
Ils ont commencé avec le championnat mondial. Et ensuite, ils ont eu le championnat télé, championnat féminin, championnat 3 contre 3, qui finissent avec le championnat par équipe, là.
C'est correct.
FTR, Briscoe, oui, match. Ça va.
Mais mêlant en demi-finale.
Mêlant en demi-finale. Voyons.
C'est un manque de respect, là. J'étais offusqué.
Ah, non, mais écoute.
Offusqué.
11 minutes seulement.
Offusqué.
Le changement de titre, ça, il n'y a pas raison. Ça, il n'y a pas raison d'être fâché de
non,
ça.
Mais, oui, non, il n'y a pas raison d'être fâché, je comprends qu'il est fâché. Puis moi, je ne suis pas d'accord avec la décision de Tony Khan. Le gars, il a traîné le ROH belt dans toutes les compagnies. Il l'a gardé relevant.
La seule chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il avait fait savoir sa décision de quitter ou son mécontentement avant que Tony décide de passer la belt.
On aurait eu un... écoute.
Je ne sais pas, tu sais, comment le timing des choses. Mais, selon toute vraisemblance, ce qu'il dit, c'est non, il était pas content, puis c'est une des raisons pourquoi il part. Mais ça, c'est du booking, ça, c'est bébé Lala, tant qu'à moi. Mais c'est sûr que la position du match, puis la longueur du match, je suis d'accord avec toi, c'est un manque de respect.
Un manque de respect.
Je le comprends même pas. Content pour Claudio. Claudio Castagnoli, ça va faire un excellent champion Ring of Honor. La première fois qu'il gagne un titre en simple d'importance. Écoute, il y a une belle histoire à ça. Mais, encore plus, si t'es pour faire une belle histoire avec ça, pourquoi tu me mets le premier? Pourquoi tu me mets pas en demi-finale ou même en finale? Donc, voyons voir ce qui va arriver. Il a dit qu'il voulait prendre une petite pause de lutte. Gresham, après son départ. Donc, il est booké sur le show du 31 juillet, ben, en fait, de dimanche, de Ric Flair. On va voir après ce qui va se passer. Ben, ça fait le tour des nouvelles. Lutte québécoise. Lutte québécoise.
On recommence.
Lutte québécoise.
Laissez pas tranquille.
Il y avait même un peu de grichage. Ben oui, je l'avais jamais entendu. Hey, je veux revenir sur le show de la FLQ qui avait lieu à la Place des Festivals samedi dernier dans le cadre du Juste pour Rire. Ta soeur était là? Ah, cool.
Ben, elle travaillait, fait qu'elle a regardé. Ah. Elle me texte, elle a dit, Kev, pourquoi il y a de la lutte? Là, elle dit, c'est bizarre. Il y a vraiment beaucoup de monde.
C'était la finale, si vous voulez, là, des événements à la Place des Festivals. Et pour vrai, là, bon, Juste pour Rire a dit à la FLQ qu'au début, là, donc à son maximum, il y a eu 10 000 personnes.
C'est malade.
Mettons qu'ils ont arrondi un peu. Là. Mettons qu'il y avait 8 500, ils ont arrondi énorme. À 10. Mais honnêtement, j'étais là. Il y avait du monde de Maisonneuve à Sainte-Catherine.
C'est
là.
Malade.
C'était complètement fou. Tout le monde capotait de voir ça. Là. Tout le monde capotait de voir la foule qui s'est entassée là. Puis il y en a beaucoup qui sont restés jusqu'à la fin, là. Beaucoup qui sont restés jusqu'à la fin. Stu Grayson qui faisait la finale contre Handsome JF, notre ami qui nous parlait d'Impact.
Entrée.
Ben c'est ça, les grosses entrées, ça a bien marché. Mmh. Marco Estrada, son entrée a hyper fonctionné.
C'est quoi il a fait?
Ben c'est son entrée d'habitude. Ouais. Mais tu sais, as-tu vu le setup?
Le setup était fou.
Il y avait trois écrans géants.
C'était un gros show.
C'était
là.
une grosse production.
Genre
là.
De show qu'il aurait dû peut-être être filmé pour éventuellement être sur un DVD ou télévisé.
Peut-être. Genre de show qu'il n'y a pas une compagnie indie qui peut se payer.
Non, tu comprends?
Et puis, qu'est-ce que je suis venu pour dire aussi? Il y avait Marco, il y avait Stu, il y avait GF. Puis je suis venu pour... Martin Vachon qui a animé. Qui a fait une belle job. Il suait, là. Il faisait chaud samedi soir. Ouais. C'était drôle parce qu'on le voyait en gros plan sur l'écran géant. Puis tout ce qu'on voyait, c'était la sueur dans le visage à Martin. Qui a fait un spot à la fin. Qui s'est fait donner une volée par les valets de GF et par la suite qui est revenu avec un spear. Puis bon, lui et Stu qui ont été chercher leur foule. Donc, ça a bien fini cette soirée. Commencé à 9h15, ça s'est fini à 11h. On a eu un 15 minutes avec les Pong Flakes et Lulu Hughes.
Ah, nice!
Donc, ça a été, non, pour vrai, ça a été une très, très belle soirée. J'ai bien aimé mon expérience là-bas et je pense que ça va devenir une annuelle sur la FLQ avec Juste pour rire. Donc, très, très, très content. C'est leur retour là, à la FLQ. J'ai aimé aussi, puis je le mentionne là, mais c'est durant ton show à toi. Juste pour rire, là.
Mm-hmm.
C'était le show de 18h. 18h, j'imagine, des fois, il y a un peu moins de monde que le show de 21h. Mm-hmm. Et là, ce qu'il faisait, c'est qu'il remplissait tous les sièges qu'il y avait devant la caméra. Ouais. Pour que, vu que c'était un TV taping, qu'à l'écran, ben, on voit.
Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé, hein?
Quoi?
OK. So.
J'ai un point, là, pour parler de ça ici, mais vas-y. Vas-y.
So. C'est deux blagues qui animent. So, il y avait beaucoup de blagues.
Ouais.
Et Juste pour rire vient me voir et dit: Kev, on est dans des problèmes. Parce que toutes les blagues sont arrivées en retard. Mais toutes les blagues, il y avait des places en avant. Ils ont donné aux Blancs qui sont arrivés à l'heure.
En fait, c'est parce qu'il y a du monde qui se sont fait déplacer.
Exact. Ils sont arrivés à l'heure. Ils ont déplacé par en avant.
C'est ça, exact.
Fait que là, il dit, on est obligé de toutes les mettre en arrière. Il dit,
mais c'était pas voulu.
Mais non! Ouais. Et là, il dit, on sent mal. Là. C'est animé par deux Blancs. Les gens arrivent en retard. On est obligé de leur dire, ben non, vous pouvez pas vous asseoir en avant. C'était tellement... Ben, c'était cute et maladroit et parfait, là, mais je comprends qu'il fallait qu'il...
Ben, c'est ça. Moi, mon point, c'était de remplir les sièges devant la caméra. Ouais. Chose que la lutte indépendante n'a jamais, on dirait, comprise.
Ouais.
Moi, là, j'ai été voir des tapings, même aux États-Unis, le Warrior Wrestling, qui sont sur Fight TV.
Ouais.
La caméra est d'un bord. Ils remplissent pas ce côté-là de caméra. Pourquoi tu veux montrer que tes premières rangées sont vides?
100%.
Ça demande... $0 d'investissement.
100%.
Faut juste que tu aies un bénévole qui demande aux gens: hey, on peut-tu vous déplacer d'un côté parce qu'on veut remplir le côté? C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Bref, message à tous les promoteurs de Lutte Indie au Québec qui nous écoutent. C'est une bonne idée si vous faites ça. Out in the Ring, le documentaire sur la communauté LGBTQ+, dans le monde de la lutte professionnelle, dont j'ai fait partie, j'avais été interviewé, j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'était leur première montréalaise. Hier, mardi, j'ai eu la chance de voir le documentaire pour la première fois. Pour vrai, excellent documentaire. Très, très, très inspirant. Il y avait des personnages clés dans l'histoire. Il y avait entre autres des gens, un qui est là, Mike, qui est un lutteur en Floride et qui était présent puis qui a parlé aussi. Il y a eu un petit Q&A après. Et pour vrai, là, il aurait pu faire une conférence, ce gars-là. Là. Sérieusement, là, c'était Sonny Kiss était là. Sonny Kiss qu'on voit à AEW qui était présente à l'événement, qui était présente à la première mardi. Il y avait également Danny Jordan qu'on a vu à quelques reprises également du côté d'AEW. Donc pour vrai, c'était vraiment, je cherche le nom, Mike Parro, le nom du partenaire en question. Donc pour vrai, c'était puis Pat Patterson, c'est un peu l'élément central de l'histoire. Dans les premières minutes, il arrive dans l'histoire et on parle de lui à la fin également. Charlie Morgan, qui est une lutteuse en Angleterre, qui parle de Pat à la fin en disant, ben si lui avait pas été là, peut-être que, tu sais, ça a comme ouvert la voie à d'autres. C'était vraiment cool. Bertrand Hébert, on le voit à plusieurs reprises parce que c'est lui la voix de Pat Patterson maintenant. Et pour vrai, il a fait une super, super belle job. Très, très fier de lui, très content pour lui. Puis, on a rétabli un peu la réputation de Pat là-dedans. Parce que, je t'en parlais hors d'onde tantôt, Pat Patterson, Superstar Billy Graham, avait déjà dit de lui qu'il avait agressé des mineurs, ce qui était complètement faux, mais tout le monde se souvient de ça. Et personne ne se souvient que dans son livre, Billy Graham s'est rétracté et qu'il avait dit qu'il avait menti juste pour faire mal à la WWE, même pas à Pat. Pat lui a jamais pardonné, d'ailleurs. Mais dans le documentaire, on présente la page du livre et on surligne en jaune pour que ça soit bien évident que ça dit « j'ai menti pour faire mal à la WWE ». Dans la salle, ça fait comme « oh shit, ok ». Tiens, il y a des gens dans la salle qui ne savaient même pas ça.
Ben moi, je ne savais pas.
Donc, je suis très, très, très content qu'on ait pu rétablir une partie, ou en tout cas, la réputation de Pat là-dedans. Sinon, il paraît très, très bien. Tu sais, on le voit avec Legends House quand il sort du placard pour la première fois. Bref, si vous avez la chance d'aller le voir, c'est jeudi. Donc, on est jeudi, là. Mais ça joue à 14h dans le cadre du Festival Fantasia. Probablement, ça va être disponible sur d'autres plateformes dans les prochains mois. Mais un excellent documentaire de Ryan Levy. Très, très, très content et fier d'en faire partie. Japon.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba
Attends une minute, juste avant d'aller au Japon, on a des billets, une paire de billets à faire tirer, puis je le fais aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on a nos billets de la WWE. J'ai une paire de billets à faire tirer pour la IWS le 6 août prochain. C'est en même temps que la classique. C'est pas en même temps, c'est pas vrai. C'est pas en tout en même temps. C'est le soir
non, de la classique. Non, tu viens à la classique, tu vas à IWS
puis
après.
Puis t'as le temps de te rendre à IWS.
Ben oui. On finit à 3h30. Là.
Exactement. Donc, la IWS qui fait un de ses plus gros shows, c'est le match, le dernier match de Manny, PCP Manny, en équipe avec Green Phantom contre TDT dans un Fans Bring the Weapons. James Stone contre Alex Silva. On a également un four-way féminin, écoute bien ça, Melanie Havoc, Chris Tara, qui est une des belles recrues féminines au Québec, là, qui a beaucoup de talent. Veda Scott et Ruby Soho. Ruby Soho.
Oui. Elle va être là?
Dans un four-way avec Veda Scott.
Ah, c'est dommage cool.
Et deux talents locaux, locaux, Melanie Havoc et Chris Tara. On a Lufisto contre Jessica Black. Et on a également Matt Menard et Angelo Parker. Nos boys qui vont affronter Casanova Production. Mike Bailey contre Joey Janela. Et Kevin Blanchard contre Tariq. Donc, gros show. C'est à l'Olympia. Tu sais, on dit souvent la NSPW, ça va bien. Ouais. Tu sais, Stade Canac, le
Diamant. C'est gros, Olympia.
Mais IWS vont avoir roulé à l'intérieur de 12 mois. Le MTELUS, le Club Soda et l'Olympia.
Wow.
C'est pas rien, là. C'est trois des grosses salles qu'on a au Québec, là, dans le centre-ville. Donc, c'est le 6 août prochain à 20h. Les portes ouvrent à 19h. On a une paire de billets à faire tirer. Donc, le premier ou la première à m'envoyer un DM sur Facebook, Twitter ou Instagram va se mériter la paire de billets.
Moi, j'aime ça
Montréal,
quand tu l'annonces vous soyez dans disponible. Le milieu du show de même. Parce qu'il faut qu'ils se rendent au show.
Absolument. Faut même qu'ils aient entendu le thème du Japon. Je leur ai comme servi une balle courbe.
Mm.
Le Japon, Kev? Le Japon? G1? Qu'est-ce que t'as écouté de G1? Parle-nous de G1.
Je suis rendu presque à jour, G1. G1, ben là, j'y vais. Day 3. Pire!
Jour 3 en français.
Pire G1 de l'histoire des G1. Pire G1! Pire! Shit sous shit! Foot bad luck fall shit! Bad luck fall shit!
Je suis très diverti en ce moment.
Foot! C'est shit! Yujiro. Le dude est... Moi, je vous lis qu'est-ce que j'écris. Hein. Le dude est boring as fuck. Il est inutile. Yujiro est inutile. C'est David Finlay. 2 sur 5. Tamatanga contre Chase Owens, c'était bien. Chase Owens, c'est le Kenny Omega Marketplace. Très basic comme match, rien de plus, mais c'était bien. La foule était déjà plus allumée que quand c'était l'autre match. J'ai aimé...
C'est drôle parce qu'on dirait que t'écris mieux que tu parles.
J'ai aimé le J-Do spot
quand tu
avec
lis,
Owen
ça sonne bizarre.
Sur le pudding... Le pudding?
Sur le pudding!
What the fuck?
J'avais du pudding!
Ah oh, non, c'est Jeno, il a fait un spot avec la chaise.
Fred, moi je pense que Kev s'est échappé du pudding pendant qu'il écoutait G1.
J'attends le Jeno Turn sur Tamatanga. En tout cas, c'est vraiment nice. C'était 3 sur 5, c'était bien. Rien de plus, mais bien. Bad luck Fale. J'ai écrit Oh boy, Callis. Donnez-moi un Yano match finalement. Patnais, shit! Je vais plus jamais chialer sur les matchs de Yano. Fallait sert à quoi? Pourquoi il n'y a pas de disqualifié? Yo, il utilise des chaises! L'arbitre, il fait quoi?
Parle-nous-en calmement. Là, je comprends pas ce qui se passe. Là.
OK, so, tout le monde utilise des chaises dans le G1.
Okay.
L'arbitre voit la chaise et l'arbitre fait rien.
Dans plusieurs matchs?
Dans tous les matchs où il y a fucking Bullet Club.
Mais pourquoi l'arbitre fait... Mais c'est-tu... Est-ce que
non, c'est pas no disqualification.
Non, okay.
L'arbitre fait rien. Des fois, l'arbitre prend la chaise puis la met dehors. Bruh.
Mm.
Ça, Oh, puis Archer s'est fait count out.
OK.
C'est comme ça il a perdu contre Bad Luck for shit. Goto contre Naito. Première victoire de Goto en 5 fois contre Naito. J'ai mis 3. Bad Luck for shit, j'ai mis 1 sur 5. Naito, 3 sur 5 avec Goto. Parce que les deux là sont sans saveur, sans couleur. Les deux sont plates.
Natalia est rendue à G1 ou à New Japan?
Yo, pour vrai, c'était une mauvaise journée. J'ai failli arrêter d'écouter le G1 à cause de ça.
Wow.
C'était une mauvaise journée. Day 4 était bon, though. Day 4, guys, en ce moment.
Jour 4, Fred.
un arrêt contre Zack Sabre Jr., c'était vraiment, vraiment bon. J'ai mis 3 sur 5, mais c'était un high 3 sur 5. Un arrêt, il a battu Tanahashi. C'était, les gens disaient, ah là, c'était son gros match G1. Yo, il a donné un bon match à Zack Sabre Jr. Ils ont joué sur le fait que Enare avait torn Achilles, là, tendon d'Achille, il s'était blessé.
Ouais.
Fait que dès que Zack Sabre Jr. avait fait sa prise sur le tendon d'Achille, il a tapé tout de suite. Il a boité pour aller backstage. Moi, j'aime ça parce que ça risque de jouer dans tous les matchs. Fait que Enare, Zack Sabre Jr., pour vrai, j'étais bien surpris. Yoshihashi Shingo Takagi. Yo, ces deux-là ont une folle chimie entre eux. J'ai mis 4 sur 5, puis c'est un Yoshihashi match, hein. Un excellent match, puis ça finit avec le small package. Puis les deux ont le même finish. Fait que c'était le premier qui allait frapper le même finish. Puis j'ai trouvé que c'était un bon storyline pour ce match-là. Okada contre Yano, j'ai mis 4 sur 5. Okada a sorti un 4 sur 5 dans les mains de Yano, là. Yano, c'est un psychopathe. Il Yano, il pourrait être un des meilleurs heels de la business s'il restait heel Yano. J'adore Il Yano, 100% Ito Okada. Yo, Okada a fait le money clip. Les gens sont restés assis, bro.
Ah ouais.
Le money clip marche pas. Okada a fait le Rainmaker. Il a remis le money clip. J'ai dit Okada veut gagner avec le money clip. Mais en tout cas, il a gagné avec ça, excellent match. Après ça, puis c'est 4 matchs par jour là, dans les mm-hmm. premiers. Là. Ishii contre.
Ça va, quand
Jay White. Gonzalez, par exemple.
Excuse-moi, j'ai fait une erreur dans mes affaires.
Ça va. Ça, comment est-ce qu'ils disent ça, ce moment? Cette interruption était.
Brought to you by Gonzalez.
Non, j'oublie ce que je voulais dire, là, j'arrive pas à le dire. Là. Cette interruption était hors de notre contrôle, ou je sais pas trop quoi. Ok, là.
Ishii contre Jay White.
Ouais.
J'ai écrit pour vrai, les arbitres commencent à me mettre en tabarnak. What a match. Quel match. J'ai mis 5 sur 5. Genre, wow. Et la promo de Jay White après le match. Promo of the year.
OK.
So, Jay White, yo, moi, je travaille en même temps. J'écoute le G1, je travaille en même temps. Ça me permet d'écouter les matchs, tu sais. Et là, Jay White, il commence à faire la promo en anglais. Là, Jay White, il dit, bah, vous comprenez pas, je vais vous parler en japonais. Là, je suis comme, oh shit, Jay White parle japonais.
Ouais.
Il apporte un Young Lion dans le ring. Il dit au Young Lion, tiens le mic. Je sais quoi qui se passe. Et il se met à parler en morse.
Ben non.
2 minutes. En faisant toutes les mimiques de Jay White. En faisant toutes les catchphrases. Gens disaient les catchphrases à voix haute. Le gars.
Wow.
Je te dis, j'étais sur le cul.
Mais t'étais assis.
J'étais dans mon lit. Mais en tout cas, ouais, t'as raison. Mais déjà 5 sur 5 pour le match, 5 sur 5 pour la promo. Puis encore une fois, un dénominateur commun, Ishii qui est les 5-star matchs dans le G1. Finalement, dernier des 5.
Jour 5, Fred.
Ah, oh, c'est un autre Yujiro match, man. 2 sur 5 avec El Fantasmo. El Fantasmo! Il a réussi à avoir 2 sur 5 avec El Fantasmo. Imagine quand ça va. Ça arrivera pas. Mais Yujiro Badlock Fale, c'est un meurtre au premier degré. Prison perpétuité. Sans bouffe le matin. Shit!
Excuse-moi. Caroline.
Non! Non!
Tu décris très,
non.
très bien, on dirait le traitement d'un prisonnier. J'étais un peu inquiet. Qu'est-ce que tu nous as pas dit, Kev, sur ta vie?
J'écoute la série là, avec le dude là.
Prison Break?
Oui, j'ai écouté ça. Mais...
Unité 9?
Le dude, j'ai dit pas.
Je sais pas, il y avait des dudes dans Unité 9.
Sonada Taichi, c'était vraiment bon. Okay. Deux autres gars qui ont une bonne chimie ensemble. J'étais très pompe pour le match au début du match, puis ça a donné un bon résultat. Hey, Jeff Cobb contre Bad Luck Fale. 2 sur 5.
C'est tout?
Tanahashi Naito 3 sur 5. Parce que Naito pour moi, là, c'est. Naito pour moi n'est pas un top guy de New Japan. Il s'est jamais amélioré en 4 ans. Il fait les mêmes matchs. Il perd du temps à l'extérieur du ring, revient dans le ring. Perd du temps. Il s'est fait count out! Il s'est fait count out, l'arbitre l'a même pas count out parce qu'il a fait l'imbécile dans la.
Il était en train de placer une chaise.
C'est tout pour le G1. D6, D7, ça s'en vient.
Je vais te partager les ratings de Dave Meltzer. Okay. Évidemment, pas sur ces derniers matchs-là, mais sur les matchs que t'as parlé la semaine dernière. Je veux savoir ce que t'en penses.
Ah, je vais sortir mes notes.
Oui, sors tes notes. Qu'est-ce que t'as fait là, Fred?
Cote d'écoute. Oh, c'est Emilio!
Oui, on dirait un poulet. Donc, lui, le meilleur match qu'il avait coté, c'est Will Ospreay et El Fantasmo avec 4,5.
J'avais 4 pour ce match. J'ai de la misère à retrouver mes notes, là, mais j'avais 4 pour ce match-là.
Il y avait Okada et Jeff Cobb à 4,5 également.
OK.
T'avais-tu aimé ce match-là? Je me souviens pas.
Attends, donne-moi 2 secondes.
Sors tes notes, là.
Ouais, donne-moi 2 secondes.
Sors tes notes.
C'est quoi j'ai écrit? OK, je l'ai.
Bon.
Je l'ai écrit.
Ospreay, Fantasmo, 4,5. Okada, Jeff Cobb, 4,5.
OK, il était généreux, pareil. Là.
Pour les deux?
Ben, moi, des tout...
Moi, les deux, c'était à journée 2, effectivement.
Répète qu'est-ce qu'il a dit?
4,5 pour Fantasmo et Ospreay.
Attends, je suis en 2021
G1. Colin,
come on!
Bon, merci, Fred.
G1 2021.
T'es en feu, Fred, depuis qu'il est revenu d'Alley.
G1.
L.A.
G1, L.A.
T'as bien été ton voyage, Fred?
Ouais, c'était super de fun.
Ouais.
OK, je suis là. Je suis
bon, enfin.
OK. Enare Tanahashi, 3 sur 5.
Non, je veux pas que tu me redises tes cotes. Ospreay Fantasmo.
5 sur 5.
Bon, il a donné 4,5.
Okay.
C'est correct. Toi, tu fais pas de
demi. Je fais pas de demi.
Okada Jeff Cobb.
4 sur 5.
Il a donné 4,5. Peut-être okay. Un petit peu plus généreux de toi. Et ensuite, Taichi et Ishii, 4 écarts.
Taichi et Ishii. Oui, j'avais mis un gros score pour ça.
Et le dernier, c'est Sabre Jr. avec Kenta.
Moi, j'avais mis 3 sur 5.
Il avait mis 4 écarts.
Okay, moi,
et Goto et Naito, il a mis 4. Bah, c'est les seuls 4 et plus.
Il y avait les matchs plates, man.
Ben, je peux pas te dire, là. Je peux pas te dire, mais il disait que ça avait quand même bien été.
Non, j'ai foutu plate.
L'écouteur. En façon un peu plus rapidement, d'habitude, l'écouteur, les avertissements.
Ouais,
j'ai adoré comment. C'est pas pour ça qu'on va le faire plus rapidement, mais.
Moi, c'est pour ça que je te dis pas plus rapidement.
J'ai adoré comment Paul Heyman a rattrapé l'affaire du micro qui marchait pas en disant de un que le gars devait venir du New Jersey parce qu'il était à New York et de deux qu'il était pour être le prochain à être congédié. J'ai dit,
damn!
Et là, ensuite, l'affaire de Who's Your Daddy avec Theory, ça m'a vraiment fait rire.
Puis Roman l'a bien joué aussi.
Absolument.
J'ai aimé l'angle de Seth Rollins puis Riddle à la fin du show.
Ouais.
J'ai aimé l'attaque, c'était violent, c'était bon.
Tu sais ce que ça a donné, hein? Seth Rollins et Riddle qui devaient être à SummerSlam.
Le match n'existe plus.
Riddle n'est pas blessé, là. C'est une blessure de storyline. On les enlève de Twitter. On les enlève de SummerSlam.
Ouais.
D'ailleurs, Seth Rollins a dit sur Twitter à des fans qui se plaignaient, tu sais, qui n'étaient pas pour être là. Seth Rollins a dit pour tous ceux qui ont acheté un billet pour SummerSlam en passant me voir à l'action. Je suis désolé, j'ai tout fait dans les 6 derniers mois pour avoir mérité ma chance sur le show, mais il y a des affaires qui sont hors de mon contrôle. Merci de chanter ma toune. Vous allez l'entendre, vous allez la réentendre bientôt.
Pourquoi il met
et
un
Triple H a retweeté en disant « Je t'entends. I hear you.
Bon. »
Fait que je sais pas si c'est storyline, pas storyline. Je sais pas si. Triple H a sûrement un plan, là. Il fait pas ça pour rien, là. Mais voilà. Donc, oui, j'avais aimé ça aussi. J'ai aimé ça à Ring of Honor. J'ai pas écouté tout le show. J'ai écouté certaines affaires. On a enlevé. Ben, Tully Blanchard n'est plus avec la compagnie.
Ouais.
Et on a fait en storyline Prince Nana avec le Embassy qui fait partie des clans. Un peu légendaire, si vous voulez, la Ring of Honor. Donc, le Embassy qui a racheté la compagnie de Tully Blanchard, le Tully Blanchard Enterprise, et qui est maintenant, entre autres, gérant de Jonathan Gresham, mais bon, qui est plus là, Brian Cage et Gates of Agony. J'aime ça, c'est un beau clin d'œil au passé de Ring of Honor qui coûte pas grand-chose, puis Prince Nana est un des personnages, une des personnes les plus appréciées dans le vestiaire, donc j'étais content de le voir revenir comme ça.
J'ai adoré le match de Brody King et Darby Allin. J'ai trouvé que c'était super bon.
Ouais.
J'ai pas haï quand Miro est arrivé et il est resté sur la rampe. Pour faire quoi? Le patinet, il se fait aveugler, il reste à la rampe.
Non, on est
j'ai adoré. Non, mais parce que non, mais je peux pas revenir 8 fois. Là. J'ai adoré la réaction de la foule sur Jungle Boy.
Oui.
Mais sur le patinet, il a turn heel puis il return babyface en 2 secondes. Kiki book! J'ai adoré le match
Ça, on va en reparler après. Là,
j'ai adoré le match de Stark. Stark, c'est une superstar. Là. Et, main event level pour moi.
Un petit spoiler pour toi, mon Kev. Il n'est plus champion FTW.
Ricky Starks. Dis-moi pas que c'est Danhausen.
Non, c'est Hook.
Ok, il se battait contre Hook. Il devait se battre contre Danhausen.
Je vais te dire
Danhausen avait challengé la semaine dernière, puis Ricky Starks avait accepté.
En fait, il a battu Danhausen et il a fait tout de suite après un autre challenge, comme il a fait la semaine dernière.
Wow,
et c'est là,
Hook.
C'est Hook.
Wow, la foule devait être insane.
Et Hook a gagné le titre.
La promo de FTR,
Tu veux-tu un autre spoiler?
Punk?
Non. AEW a annoncé officiellement que les premiers champions trio, donc 3 contre 3, vont être couronnés à All Out.
OK. Mais la promo de FTR, wow! Du bonbon, du début à la fin. C'est des êtres humains qui parlent à d'autres êtres humains. C'était excellent. Et c'est tout.
Moi, j'ai bien aimé FTR contre les Briscoes. Main event de Ring of Honor. Solid match. 100%. Solid match. Peut-être pas meilleur que leur premier, mais semblable. Là, je veux dire, il n'y a pas une grosse différence entre les deux.
Temps.
Rouge contre Dragon Lee, c'était insane. Là, les deux frères, là, ça, le Dragon Lee. Là, de ce que j'ai compris, Rouge a demandé d'affronter son frère.
Okay,
justement pour lui donner une opportunité de se faire voir, pour se faire signer éventuellement. J'ai bien aimé le brawl entre Becky et Bianca. Ara, j'ai bien aimé ça.
Moi, j'ai haï la promo de Bianca.
J'ai aimé le brawl entre les deux.
Je suis comme, d'où t'es le babyface, c'était la heel, là.
Mais j'ai juste aimé le brawl. Okay, je te dis pas de la promo, j'ai aimé le brawl.
Shit.
Et j'ai bien aimé qu'on remette ensemble Anna Jay et Tecanti.
Ouais.
Ils fêtent mieux ensemble, puis en même temps, tu sais, Dark Order perd un peu de ses plumes. Et j'ai vraiment, vraiment ri quand Garcia et Parker, là, nos deux, pas nos deux Québécois, mais Garcia et Angelo Parker, ils ont passé, tu sais, ils sont dans la cage.
Ouais, je sais, man.
Puis là, Ty Conti arrive pas à ouvrir le foot cadenas.
Mais moi, dans ma tête, je comprends pas. Je suis comme, est-ce que vous avez le droit de prendre des faux cadenas? Hein?
Et là, à un moment donné, elle a donné la clé à Garcia, puis lui non plus. Puis là, ils ont juste passé à travers les barreaux.
T'as-tu vu la
où c'est Matt Menard qui vient pour passer, puis lui est un peu plus corpulent, puis il a dit oh shit. Je pleurais.
T'as-tu vu la shot où c'est pas Swagger?
J'ai dit corpulent, c'est costaud, je voulais costaud. Dire. Là, il est pas corpulent, il est costaud.
Pas Swagger, c'est quoi son nom? Zeffler, Jack.
Jack Swagger?
Ben, c'est Swagger son nom?
Jack Hager.
Hager, ouais.
Mon Dieu, ben oui.
Jack Hager, là, il est resté pris.
je l'ai pas vu, ça.
La caméra switch. J'ai dit, ça se peut pas, mais c'est parfait. Mais ce match-là était shit sous shit.
Ah ouais, avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
Si t'as pas le temps, là,
ouais.
De faire un barbed wire match, là,
ouais.
Ben fais-le pas. Si t'as pas assez de temps sur ton show, ben book pas un barbed wire match. Ils ont booké 17 minutes d'un barbed wire match. 17 minutes. Pourquoi Tecanti pis l'autre patinette t'es pas dans Shark Tank?
Ben, je sais pas.
Qui book?
Je sais pas, c'est une bonne question. Ben, moi, en fait, je sais pas.
Parce pourquoi il était pas dans Shark Tank? Oui, il a annoncé.
T'as raison, je sais pas. Je vais aller plus obscur. NWA, là.
Ouais.
Ils sont-tu à la télé?
Non.
Pourquoi? Qui ont décidé d'avoir un titre féminin télé. Fait qu'eux autres, là, ils ont en ce moment, là, ils ont pas de télé, là.
Ouais.
Ils ont en ce moment 8 titres. Donc, un championnat du monde masculin, championnat du monde féminin, championnat du monde masculin par équipe, championnat féminin par équipe, championnat national masculin, championnat junior heavyweight masculin et championnat féminin télé. Vous avez pas de télé! Rey Mysterio, là. OK. Fait que t'as Rhea Ripley qui arrive. Elle pousse Aliyah. Ça va. Elle pogne. C'est qui? Elle a pogné Dominique. Elle pogne Dominique.
Puis elle traîne.
Comme une
bitch.
Et ensuite, Rhea arrive. Ils sont 32 dans ce party-là. Il n'y a pas personne qui s'en va le défendre. Elle est toute seule sur le coup. Toi, c'est 32, il y a un party chez vous. Puis il y a une dude qui arrive, qui est genre musclée, puis toute, là, une doudesse qui arrive, elle est musclée. musclé, pas musclé, elle arrive, puis apprend à stick ta sœur. Les 32, vous allez vous jeter sa doudesse.
Bro, c'est pas juste ça, là.
Voyons!
C'est même pas, moi, c'est même pas Rhea Ripley, parce que je comprends qu'ils veulent pas attaquer Rhea Ripley. Bon, après.
Ils sont 32!
Mais les autres patinets sont arrivés.
Les 32 sont pas plus sortis.
Sont restés dans chambre.
Il y en a un qui est sorti. À toute fin, là, après le spot de la table. Puis as-tu vu comment ils ont pas vraiment frappé Dominique? Ils l'ont traîné, mais ils l'ont pas, ils l'ont laissé un peu.
Ils l'ont lancé,
ils l'ont pas attaqué. Moi, je pense que Dominique va tourner heel bientôt. Ça s'enligne pour ça.
Je vais le retourner, regarder.
Ça s'enligne pour ça. Ah oui, Logan Paul, là. Faut qu'il comprenne que c'est un heel.
Pat,
la foule a crié one more time après le skull crushing finale.
Je comprends, mais il était pas dans une position à la télévision qui était heel.
C'est juste à dire qu'il faut qu'il soit heel. La foule ne veut pas.
Oui, mais à chaque semaine on parle de ça.
La foule tourne Miss Babyface.
À chaque semaine on parle de ça. C'est pas la job de Logan Paul, c'est la job de celui qui book.
Je comprends que c'est du divertissement, là. Mais Kevin Gates, là,
ouais,
à AEW, là,
ouais,
qui met KO un lutteur. Il a mis KO un lutteur. Il a mis KO Tony Nese. C'est pas un lutteur, Kevin Gates.
Tony Nese, c'est pas un lutteur non plus.
Ben là, dans le show, oui, Kev.
Non, mais dans le show, c'est un faire-valoir.
Puis ensuite, c'est un lutteur pareil.
C'est un faire-valoir.
Ben, Kevin Gates, c'est qui? C'est le faire-valoir du milieu musical.
Tu parles, man. Ryan Reeves s'en va à WWE, il va knocker n'importe qui, là. Snoop Dogg donne un coup de poing.
Je suis content que tu me dises ça.
Suge Knight donne un coup de poing à quelqu'un.
Tu me rappelles.
Il tue.
Oui, mais Suge Knight, il tue des gens pour vrai.
Oh shit. Disclaimer, je parle avec ça. Disclaimer, I don't know what happened.
Selon les documentaires que je regarde.
I don't know.
Selon les documentaires que je regarde. Mais je suis content que tu me dises, tu me compares ça avec WWE, parce que le spot tout de suite après, c'est qu'il y a un double qui reçoit du gâteau dans la face.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, on est rendu à faire des storylines WWE.
Mais moi, j'ai pas aimé cette promo-là au complet.
Moi non plus. Pourquoi Luchasaurus se retourne contre Jungle Boy? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait en sorte? Jungle Boy est sorti.
Ouais.
Puis là, tout de suite, il s'est mis avec. Il y a rien qui a été triggered pour ça. Je comprends pas.
Lame!
T'as-tu d'autres choses? On s'en va aux prédictions.
Prédiction.
Je veux juste donner la carte du show de dimanche avec Ric Flair, puis on va donner la prédiction juste pour le match final. Mais parce que c'est une sacrée bonne carte. Pour vrai, là.
Je vais l'écouter, moi.
Il y a une Battle Royale, Bunkhouse Battle Royale, avec entre autres Bully Ray, puis bon, d'autres mondes. Jonathan Grisham, Nick Wayne, la jeune sensation de 16 ans, Allen Angels et Konosuke Takeshita dans un four-way. C'est fou, là.
Ouais, ça va être bon.
Les Von Erichs contre les Briscoes.
Ça va être bon.
Man, je veux voir ça. Ren Narita contre Yuya Yumura.
Ouais, ça va être bon.
Il y a Killer Cross avec Scarlett Bordeaux contre Davey Boy Smith Jr.
Ça va être bon.
Les American Wolves, Davey Richards, Eddie Edwards contre les Motor City Machine Guns, Alex Shelley, Chris Sabin.
Ça va être bon.
Ça va être débile. Un four-way, Ray Phoenix, Laredo Kid, Taurus et Bandido.
Ça va être bon.
Tu vas mouiller ta petite culotte. Ricky.
Wow. Damn.
Ricky et son fils Kerry Morton, accompagné de Robert Gibson, les Rock'n'Roll Express, ouais, contre Brian Pillman Jr. et Brock Anderson, accompagné de son père Arn.
Ça va être bon.
Ben, ce sera peut-être pas le match de la soirée,
mais
c'est l'aspect nostalgie, tu sais. Jordynne Grace va défendre son titre Impact féminin contre Deanna Purrazzo et Rachel Ellering.
Let's go.
Josh Alexander va défendre son titre d'Impact contre Jacob Fatu.
Let's go.
Si vous voulez voir Jacob Fatu, c'est le temps, là, on vous en parle depuis des années. Et, évidemment, à la finale, Ric Flair et Andrade contre Jeff Jarrett et Jay Lethal. Tu sais, la semaine passée, je te disais, c'est un gars WWE contre un gars d'AEW.
Ouais.
Mais c'est aussi un gars WWE avec un gars d'AEW.
Ouais.
Tu sais, Jay Lethal et Jeff Jarrett, accompagnés de Karen Jarrett,
mm-hmm,
qui gagne le match pour la finale.
Ben, c'est Rick.
Parfait. Rick sur qui?
Sur Jay Lethal.
Moi aussi, c'est ce que je verrais.
Il n'y a aucune chance que Jeff Jarrett prend un pin à Nashville.
Ça, c'est 31 juillet, c'est dimanche. Ça va être disponible sur Fight TV. Ça s'appelle The Last Match.
J'espère que le production value va être bon.
Moi aussi. J'ai confiance en Conrad. SummerSlam ce samedi à Nashville également. Donc, on va y aller nos prédictions rapidement. Sans disqualification, les Mysterio contre Judgment Day, Priest et Balor.
Judgment Day,
puis turn de Dominic. Ouais. Bobby Lashley défend son titre des États-Unis contre Theory.
Bobby Lashley.
Moi, je referais dernière belt à Theory. S'il est dans les plans de Triple H, c'est ce que je fais. Logan Paul contre le Miz.
Non, c'est ça sur Terry. Il va être dans le... En haut, là, avec les boys, avec la mallette, là. Ben pas oui, besoin d'avoir les deux, là.
Ben, peut-être. OK, mais moi, je vais avec Terry pareil. Logan Paul, parce que tu peux pas le faire battre deux fois contre Lashley.
Ben, tu peux, s'il si y a un affaire qui arrive, là.
Logan Paul contre le Miz.
Ben, ça va être Logan Paul.
Logan Paul. Pat McAfee contre Happy Corbin.
Happy Corbin.
Pat McAfee.
Pat McAfee peut prendre un pin. Ça va, Happy Corbin peut prendre ce win-là, puis après ça, partir avec. Là.
Ben, oui, mais je pense que ça va être Pat McAfee. Les championnats Undisputed WWE, les Usos contre les Street Profits, ça va être Jeff Jarrett comme arbitre spécial.
Ça va être les Usos.
Les Usos. Liv Morgan défend son titre de SmackDown contre Ronda Rousey. Ça va être Ronda.
Ça va être les Street Profits qui vont gagner.
OK.
Parce que Jeff Jarrett est babyface, arbitre.
OK.
Il va pas... Ben, moi, je pense que ça va être Jeff Jarrett.
Ça va être les Street Profits,
ouais.
Ronda Rousey contre Liv Morgan. Ronda Rousey. Il enlève le set à Liv.
Je pense, bah, pense que
elle,
oui.
Était jamais, elle était jamais, c'était jamais prévu qu'elle l'ait longtemps.
Ouais.
Bianca Belair contre Becky Lynch.
Becky.
Ça va être Bianca.
Becky.
Mais non. Becky. Ils vont garder ça sur Bianca.
Becky. Non, moi, je pense que c'est Becky.
Et Roman contre Brock. Roman.
Roman.
Quiz à Double J. Un Double J en vacances. Merci toujours d'être là, Double J. Spécial Vince McMahon. Quel a été le meilleur match de Vince entre son match à WrestleMania 17 contre Shane, son match à Saint Valentine's Day Massacre contre Austin?
Austin.
Quel a été le meilleur coup de Vince McMahon entre l'achat de la WCW ou le contrat lucratif avec Fox?
L'achat de la WCW.
Je suis d'accord, moi aussi. Ouais. Par contre, c'est sûr qu'au niveau argent, oui. Fox, c'est important.
En termes de frapper l'imaginaire pour le restant de l'histoire de l'humanité, c'est
exact,
ça.
Exact. Quelle a été la pire décision de Vince? J'aime bien, c'est Double G, il est sa coche.
Ah, il est bon, il est vraiment bon.
Entre la création de la XFL et quelle a été la pire décision? Entre la création de la XFL ou le Montreal Screwjob? La XFL.
Ben, la XFL.
Le Montreal Screwjob.
C'était la meilleure affaire pour lui.
Ben, au final, ouais. Ça a donné ça. Ça aurait pu mal tourner, mais ça a pas mal tourné. Ben,
moi, je pensais qu'elle allait dire entre la XFL puis NXT Bubblegum.
NXT 2.0.
Ouais.
Ah, ben là, à ce moment-là, ça serait encore la XFL.
Ah, moi, ça serait la NXT 2.0 parce que NXT 2.0 va passer sous le silence. Là. XFL, il y a des documentaires là-dessus.
N'oubliez pas qu'on a un concours pour avoir des billets pour la IWS pour samedi le 6. Des
billets pour la Classique R.
La même journée, vous allez à Classique le jour, vous venez à la IWS le soir, allez écouter Sans Restriction avec Poge, Pierre-Olivier, Joseph. C'est déjà tout pour nous. On vous remercie de nous avoir écouté un antipode extra cette semaine. Mais Vince McMahon, c'est une grosse nouvelle. Au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Pourquoi t'as la bouche ouverte comme dans la télé, bro?
Qu'est-ce qui se passe?